Bonjour, je suis Steve.
Et moi, je suis Monsieur Onebunny.
Et vous écoutez Comic City. C'est le 32e épisode de notre podcast. Au sommaire, cette fois-ci, du DC, du Marvel, beaucoup de Marvel.
Boom, du Dynamite.
Ouais, et du Image.
Et du Image, hein, bref, un peu de tout, quoi.
Un petit peu de tout, effectivement. Pas de Vertigo cette fois-ci, mais généralement, on essaie de garder les Vertigo pour les spéciaux, donc c'est vrai qu'il n'y en a que très rarement dans notre émission régulière. Avant de s'attaquer aux reviews, comme d'habitude, on va commencer par les news. Et on commence cette semaine, enfin cette quinzaine de news, par Heroes qui va avoir un procès. Ah. En tout cas, un certain Jason Wild attaque Heroes pour plagiat, et notamment sur la saison 4, car apparemment le pitch de la
saison...
Parce
qu'il y a eu une saison 4 ?
Oui, oui. Qui est la dernière, hein, ça y est, c'est officiellement annulé, enfin.
Ah, bah oui, d'accord, merci.
Donc voilà, le pitch de la saison 4 copierait en fait sa série de graphic novels qui s'appelle Carnival of Souls. Alors honnêtement, je ne connais absolument pas cette série. C'est sorti chez un tout petit éditeur qui, je crois, s'appelle Carnival ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors si quelqu'un connaît, veut bien nous en parler dans les commentaires, ce sera avec plaisir, parce que j'ai pas eu beaucoup le temps de me renseigner sur ça. Donc voilà. Mais on va suivre un petit peu l'affaire, voir si ça donne quelque chose. Mais m'étonnerait que ça aille bien loin cette histoire. Et je pense que c'est plus un moyen pour lui de faire parler de lui et de sa série,
oui, voilà, ouais,
que de faire réellement un vrai procès.
Oui, parce que à ce moment-là, Rising Stars et compagnie, il y a aussi pas mal de...
Ouais, c'est vrai.
Ouais, quand même, hein. Bref.
On continue cette fois-ci avec le ciné. Des rumeurs qui, sur le film Ant-Man, dont on entend parler déjà depuis des années, qui est toujours soi-disant en projet de se faire, on pourrait retrouver au casting pour le personnage d'Ant-Man, Nathan Fillion. Alors pour ceux qui voient pas qui c'est, on l'a vu passer dans Desperate Housewives, on l'a vu dans Firefly, puis Serenity, et on l'a vu aussi et surtout dans Dr. Horrible Sing-Along Blog, un des acteurs fétiches de Joss Whedon en fait. Et donc ce serait lui qui pourrait avoir le rôle d'Ant-Man. À savoir si finalement il passerait peut-être pas en caméo dans le film Avengers, puisque c'est Joss Whedon qui le réalise.
Ah d'accord, ok. Voilà.
Et vu que c'est un de ses acteurs fétiches...
Et vu que c'est Ant-Man, il peut passer vraiment...
Exactement, voilà.
Discretos.
Exactement. Donc, on va suivre ça et on verra si ça se confirme ou pas. Bon, pour le moment, ce n'est qu'une rumeur. Honnêtement, moi, je pense que ça pourrait le faire parce que c'est quand même un bon acteur. Donc voilà. Ça, je trouve en plus qu'il a la tronche pour pouvoir faire un Ant-Man.
D'accord.
Ok, on continue. Tu as quelque chose, toi, pour le ciné ?
Niveau ciné, moi, j'ai le nom de la remplaçante de Megan Fox dans... Transformers 3, puisque comme tu le sais sans doute, Megan Fox ne sera pas dans Transformers 3, ce qui est vraiment terrible. On la retrouve simplement dans Jonah X prochainement, donc il faudra en profiter parce que ce sera peut-être l'une de ses dernières prestations. En plus, c'est une actrice tellement formidable, avec un jeu extraordinaire.
Ouais, enfin, avec bref, un voilà, très très beau costume dans Jonah X, en tout cas selon le trailer.
Ah bon, d'accord, bah,
ah,
très
oui,
bien.
Oui, elle a un costume de femme du Far West, genre qui traîne dans les bars à compagnie, quoi.
D'accord. Eh ben, en tout cas, sa remplaçante s'appelle Rosie Huntington-Wheatley. Je ne la connais pas du tout, mais en tout cas, elle est mannequin. Et elle a été repérée par Michael Bay dans une pub, au fait, à Noël, donc l'an passé, pour Victoria's Secret. Et,
Pardon.
Oui, bah oui. Et du coup, voilà, donc il a eu le flash pour elle, et elle remplace Megan Fox au pied levé pour Transformers 3. À voir si ses prestations, enfin si sa prestation sera meilleure que celle de Megan Fox. Voilà, c'est le suspense est à son comble, j'allais dire. On ira voir Transformers 3 juste pour savoir.
Il a craqué sur elle, ouais. On voit où il repère les actrices, quoi. Des pubs Victoria's Secret, ouais, d'accord.
Ouais.
C'est du propre. Voilà. On se demande bien quel rôle elle va jouer. Ouh. Le rôle de la
petite. Elle jouera toujours normalement le rôle de la copine de Shia LaBeouf.
D'accord.
Ou Shia LaBeouf, je sais pas comment on le prononce.
Shia LaBeouf. J'aime beaucoup comment les Américains prononcent son nom.
Et donc voilà, donc une remplaçante, je sais pas, à voir quoi, si c'est si elle est aussi bonne. Enfin bon, ça ressemble.
Oh la vanne.
On mettra une petite photo. Déjà, vous ferez votre.
Ouais, on mettra un lien pour que vous puissiez voir une photo.
Voilà.
J'essaierai de trouver une photo Victoria's Secret.
Ah bah oui, tiens, pourquoi pas.
On continue les news ciné. Un nouveau film de Judge Dredd est en préparation.
Alors ça, c'est la nouvelle du siècle. Parce que franchement, Judge Dredd avec Sylvester Stallone, c'était un chef-d'œuvre.
La loi, c'est moi.
Voilà, oui. Oh là là, oui, quelle imitation, bravo.
Moi, j'ai la voix bien cassée, en plus. Donc,
j'en
apparemment...
Tu es en train de décéder sous une tonne de détritus, au fait.
apparemment, c'est une adaptation... Alors, l'adaptation sera faite... Enfin, la deuxième adaptation sera faite par les maisons de production qui s'appellent Reliance Big Product, Big Pictures, pardon, et IM Global. Le film serait en 3D. La merveilleuse
oui.
3D qu'on nous fout partout. Hein.
Bah, de toute façon, maintenant, tout sera en 3D. Même les films français seront en 3D. Les films français où on voit des personnes parler dans une salle pendant 3 heures.
Autour d'une voilà. table, ouais.
Autour d'une table, ce sera
et,
en 3D.
Et on verra la coupelle de fruits en plein milieu de la table en 3D. Ce sera magnifique.
Une émotion intense.
Donc, il bénéficierait d'un budget de 45 millions de dollars. Ce qui est pas énorme. Hein,
ouais, ce qui est pas beaucoup, oui, effectivement.
Le tournage débuterait cet automne à Johannesburg, apparemment. Et le scénar sera d'Alex Garland, qui avait été au scénar de 28 jours plus tard ou de Sunshine. Au niveau de la production,
Garland,
d'ailleurs.
Il s'appelle, en plus.
Comment?
Il s'appelle Garland, en plus.
Ouais, Alex Garland, oui.
Ce qui va bien pour 28 jours plus tard. Donc, je sais pas si ça va aller.
J'ai même pas vu le rapprochement en ce moment. Ouais, la production retrouve toute l'équipe qui a tourné sur Sunshine. Et sur 28 jours, 28 semaines plus tard, pardon.
D'accord.
À la réalisation, ce sera Pete Davis, qui a fait Vantage Point et Endgame, deux films que je ne connais pas du tout, donc je sais pas ce que ça vaut. Et donc voilà, donc on verra si ce sera supérieur à la première adaptation.
Oui, moi j'avais bien aimé, moi j'avais beaucoup rigolé à la première adaptation. C'était kitsch, mais en même temps, c'était aussi kitsch que la BD, quoi. Donc bon. Et puis, Sylvester Stallone, c'était vraiment, il était vraiment fait pour faire Judge Dredd, quoi. C'est fou. Il avait vraiment la même tête, le même faciès.
Mais c'était milieu des années 90, c'était sa grande époque aussi.
Donc, ouais. Non, mais on a l'impression que le personnage avait été dessiné pour lui, alors qu'il existait depuis bien longtemps. Et voilà. Et bah là, voilà, je me demande vraiment qui va prendre la relève.
Ah, pas d'idée pour le moment. En tout cas, j'ai pas lu de news pour l'acteur principal. On verra bien. Dernière news ciné avant de passer aux chiffres. Une nouvelle série l'année prochaine démarra sur ABC. Cette série s'appelle No Ordinary Family. Avec au casting, dans le rôle principal, Michael Chiklis.
Ah oui, quand même.
Voilà. Et dans le rôle de sa femme, Julie Benz, qu'on a pu voir dans Dexter, notamment.
D'accord.
Donc voilà déjà un très très bon casting. Et donc, pourquoi on en parle dans ce podcast de comics, c'est que, grosso modo, c'est les indestructibles. Voilà, c'est comme le film de Pixar, quoi.
D'accord,
en,
okay,
en
d'accord.
série live, c'est-à-dire que c'est une famille qui part en vacances, se crache en avion et se retrouve dotée de pouvoirs un petit peu hors du commun, quoi. C'est-à-dire que le père qui est flic de mémoire d'après le trailer se retrouve avec une super force et une super résistance. La mère se retrouve avec les pouvoirs de Flash. La fille est télépathe et le gamin qui était un gros boulet à l'école, limite un petit peu en retard, devient un super génie.
D'accord, donc ça peut toujours servir tout ça, effectivement. C'est pratique.
Et ouais, voilà, c'est bien. Et puis franchement, le trailer avait l'air assez comique, ça peut donner vraiment quelque chose de sympathique.
D'accord. Puis de toute façon, ce sera une série...
Ah oui, une série complète. Hein,
Non mais une série comique, surtout. Ce sera.
Je pense, oui, parce que de toute façon, ça devrait passer sur ABC Family, donc...
D'accord, ok.
Ce sera vraiment pour, comme son nom l'indique, pour toute la famille. Donc voilà, moi, c'est une série que j'attends, c'est même la série que j'attends le plus pour l'année prochaine... sur les networks principaux. Je compte pas Walking Dead, bien sûr, qui est sur une chaîne du câble.
D'accord.
Voilà. Pour terminer nos news, on va passer aux chiffres ciné que tu as, Benny.
Que j'ai, exactement. Donc, petit point sur le box-office ciné. Iron Man 2, pour le moment, a rapporté 26 millions de dollars... Enfin non, pas pour le moment. C'est le week-end dernier qu'il a rapporté 26 millions de dollars... aux États-Unis, donc ça rapporte le cumul américain, je crois, à 251 millions de dollars.
Ah, pas mal.
Et dans le monde, ça se porterait à 506 millions, en fait, de dollars dans le monde entier, pour le moment.
Bien rentabilisé comme film, ça va.
Donc voilà, oui. Bon. Tu l'as vu entre-temps ou pas, d'ailleurs?
Malheureusement, j'ai toujours pas eu le temps parce que j'ai commencé un nouveau boulot et donc j'ai des nouveaux horaires et là je suis un petit peu speed et j'ai vraiment peu de temps de faire grand chose. Donc rien que déjà pour ce podcast là, ça a été très très dur. Donc vous verrez tout à l'heure qu'il y a quelques trucs que j'ai pas pu lire. Mais donc non, j'ai toujours pas eu l'occasion d'aller le voir. J'espère pouvoir trouver le temps très rapidement d'aller le voir avant qu'il disparaisse de l'affiche en France. Ça me plairait bien quand même de le voir sur un grand écran.
Ouais, quand même, oui, c'est vrai que ça se voit quand même
Là au
principalement
ciné,
là-dessus.
c'est... Ouais, voilà, c'est mieux, quoi.
Mais il y a un film que tu ne verras pas parce que tu t'en fous, à mon avis, c'est Kick-Ass.
Exactement.
Kick-Ass cumule donc plus de 88 millions de dollars aux États-Unis.
C'est pas mal, hein.
88 millions, ouais, bon. Il devrait rapporter à peu près 100 millions en fin de carrière, sachant qu'il n'est pas sorti encore partout, hein, puisque par exemple, il n'y a pas encore eu le Japon. Le Japon n'a pas encore eu Kick-Ass.
Finalement, il aura fait une bonne petite carrière, ce film.
Oui, bon, voilà.
Bah, il est déjà au niveau du remboursement, il a déjà doublé, donc voilà. Enfin, que demander de plus, quoi. C'était pas une grosse franchise non plus. Enfin, voilà, c'était autoproduit. Je sais pas. Enfin, je pense qu'il peut être content avec ça.
Bon, et puis sinon, Shrek 4, qui n'a pas démarré excessivement bien, on va dire. 71 millions de dollars pour le premier week-end, mais bon.
C'est ce que je voyais traîner un petit peu partout sur les sites et les gens
Ils espéraient
disaient,
mieux.
voilà, ils espéraient mieux, mais faut dire aussi que peut-être que les gens, autant dans les comics on a ce qu'on appelle l'event fatigue, où les gens commencent à avoir marre des crossovers à répétition, etc., bah peut-être que les gens commencent à avoir une sorte de cinéma fatigue, parce que bah, entre Iron Man, entre Dragon, entre pas mal de films comme ça qui sont sortis où les gens se sont rués au ciné, bah peut-être qu'ils commencent à avoir marre d'aller au ciné et qu'ils n'ont pas forcément le fric pour pouvoir assurer derrière, quoi.
Et puis surtout maintenant, il y a le prix des lunettes 3D qui va arriver. Et voilà, ce sera la fin.
C'est peut-être pour ça qu'il a fait un moins bon démarrage, et puis peut-être que la série s'essouffle un petit peu aussi, quoi.
Ouais.
Alors DreamWorks a eu l'intelligence d'annoncer que ce serait le dernier, parce
Avant
que...
Check Reload ou je ne sais quoi.
Moi, je pense pas que
Check
DreamWorks
Reloaded.
va... Je pense pas que DreamWorks va reprendre la franchise, quoi. Ils ont dit que ce serait le dernier, je pense qu'ils vont s'en tenir là, quoi.
Ils vont faire un spin-off avec le chaboté.
Ça, par contre, c'est pas à exclure.
Ah oui, ou Eclan. Bon, enfin bref.
Ok, bon bah je crois que ça conclut nos news pour cette quinzaine et on va
Ah bah non!
s'attaquer.
Ah bah non,
Oh,
Steve!
excuse-moi.
Ah bah non, Steve, j'ai pas reparlé, tu sais, je t'avais dit dans le Comics Weekly, en fait, notre émission, notre nouvelle émission VO, qu'il y avait eu quelques petites variantes cover spéciales dans la série Fringe.
Oui, exactement, oui, c'est vrai.
Et en fait, finalement, il y en a eu d'autres, en fait, qui ont été dévoilés et qu'on a vu au cours de cet épisode. Donc, on vous les mettra, je pense, en lien.
Je mettrai des liens pour que vous puissiez voir les couvertures.
Voilà. Et ben, si vous voulez un joli no prize, eh bien, découvrez, enfin, comment dire, devinez de quelle couverture, donc, c'est les imitations. Et voilà, vous aurez un super no prize de Comic City. Non mais en tout cas elles sont super bien faites, elles sont super sympas. C'est des gens de DC, hein, de toute façon, qui les ont fait. C'est ce que je me disais sur la première, celle avec le Red Lantern et le Red Arrow. C'est uniquement des équipes de DC au fait qui ont dessiné et fait les couvertures.
Mais de toute façon, si mes souvenirs sont bons, Fringe est produit par la Warner. On a eu des comics Fringe qui sont sortis chez Wildstorm, donc qui appartient à DC. Donc voilà, ils travaillent ensemble, donc ça m'étonne pas du tout que ce soit DC qui ait réellement fait les couvertures.
Enfin, le buzz venait du fait qu'on ne savait absolument pas au début que c'était dans Fringe qui allait avoir ces couvertures-là, et on se demandait qu'est-ce que c'était, quoi.
L'épisode est passé la semaine dernière, mais je n'ai toujours pas eu le temps de le voir, donc voilà. Je suis un peu déçu. Ok, très bien. Donc cette fois-ci, c'est la fin. Excuse-moi de t'avoir coupé.
Non, j'ose pas.
Avant la fin. On va passer maintenant aux reviews et on commence cette quinzaine de reviews avec le DC Universe numéro 56. Premier épisode de ce DC Universe, c'est le Green Lantern volume 4 numéro 38. Le scénario de Geoff Johns, les dessins d'Ivan Reis, l'ancrage d'Auclair Albert. C'est la fin de l'arc sur les Red Lanterns. Et donc sur le dernier épisode, on était resté avec Hal Jordan qui devient un Red Lantern. Je dois avouer que ce nouveau système qui n'est pas si nouveau que ça, puisque c'est depuis le mois de janvier, une fois tous les 2 mois, me plaît pas beaucoup parce qu'on a du mal à se rappeler franchement ce qu'on a lu il y a 2 mois. Bon, pour Green Lantern, moi je les ai déjà lus, donc c'est juste pour me rafraîchir la mémoire, mais par exemple sur Titans, j'ai mis quelques secondes avant de me rappeler, et pareil pour la JLA, quoi. Et c'est un peu chiant, quoi.
Ouais, enfin nous on a quand on lit en VF, on a les super résumés Panini.
Bah, c'est toujours mieux que pas de résumé du tout, puisque chez DC, il n'y a pas de résumé, contrairement à chez
Voilà.
Marvel.
Donc c'est pas trop grave, mais par contre, c'est vrai que j'avais l'impression que ça faisait super longtemps que j'avais pas lu de Green Lantern, alors que ça fait que 2 mois, mais
Bon, par contre, les mois prochains, on va en bouffer tellement que là, on va peut-être avoir une overdose.
bon, non, je pense pas, hein, on n'a jamais
Puisque bah,
d'overdose de bonnes
c'est.
choses.
Si je me rappelle bien, c'est 2 en juillet et 3 en septembre.
Ah bah tant mieux. Tant mieux, ce sera plus rentable d'ailleurs que de payer je crois, alors je crois que c'est 5,60 le magazine,
Ouais, ça va être
ou
ça.
4,60, je sais plus. Je sais plus du coup, mais en tout cas de payer ce prix-là pour avoir du Titan ou du GLA, pas terrible terrible forcément. Donc autant avoir du Green Lantern et vraiment que de bons trucs, quoi. Et Blackest Night qui devrait arriver d'ailleurs.
En novembre.
Exactement.
Donc, on va reprendre peut-être notre Green Lantern. Hal donc se retrouve en Red Lantern, comme je disais. Bah, il commence à péter les plombs, hein, comme tout bon Red Lantern, poussé par la colère.
Ouais.
Et grâce aux Blue Lanterns,
Qui sont toujours que deux d'ailleurs.
qui sont toujours que deux, oui. Et on en
Alors
apprendra
je
un
sais
petit
pas
peu
s'il y en aura
plus.
d'autres.
On va en apprendre un peu plus sur le corps, à moins que ce soit dans. Non, je crois qu'on en apprendra plus dans le prochain numéro. Un
D'accord.
petit peu plus. Donc grâce à ces deux-là, il arrive à s'en sortir. Bah, au final, Sinestro s'échappe et va décider d'aller se venger de Mogul, mais ça on le verra pas puisque c'est dans Green Lantern Corps.
D'accord,
Très
ça
dommage
c'est
d'ailleurs,
fait.
parce que c'était un bon arc. On a aussi Carol qui est appelée par les Amarones pour devenir une violette lanterne, mais bon, on peut dire rose, quoi. Pink, quoi. Donc voilà. Et
Ouais.
on a aussi les contrôleurs qui débarquent. Et on entend parler d'un certain Larfleeze. Et là, j'ai fait le tour.
Voilà, ouais, je pense que tu avais vraiment fait le tour. Au fait, en gros, il se passe pas énormément de choses, c'est un petit peu la résolution de. Ça sent vraiment la fin de l'arc, et puis tout rentre dans l'ordre, quoi, en fait, en gros. Tout rentre dans l'ordre, à part que il se passe un truc bizarre à propos des Blue Lanterns, quoi.
Mais on apprend surtout, bah voilà, on apprend qu'ils ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas un Green Lantern à porter. Et ça, c'est très important pour la suite.
D'accord.
Donc c'est soi-disant les plus puissants, mais finalement, s'ils n'ont pas de Green Lantern à côté, pff, ils servent un peu à rien.
Fait, c'est de plus en plus Pokémon, quand même.
Ouais, bah là, on sent vraiment cette fameuse guerre des couleurs
C'est leur
qui
mood.
se prépare.
Enfin bon, bref, non mais enfin c'était sympa, mais peut-être je dirais une petite baisse de tension. Il y a rien de transcendant, quoi, non plus.
Honnêtement, ce rythme de 1 tous les 2 mois, ça casse aussi énormément.
Donc c'est pour ça que non, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on en ait un peu plus la prochaine fois, parce que là ça manque cruellement quand même.
Non, c'est vrai. Mais bon, enfin, ça reste bon. Donc on a vu maintenant, on a découvert les Red Lanternes. Et donc le prochain arc, c'est les fameux agents orange. Donc
D'accord.
on
Oui, en
verra ce que
fait,
c'est.
c'est vrai que ça va assez vite, mine de rien, mais c'est juste que la diffusion des épisodes est tellement lente qu'on a l'impression que ça dure longtemps, mais pas du tout, en fait. Parce que quand on
Mais
regarde, c'est vrai
non,
que les Blue
finalement,
Lanternes,
oui.
on les connaît depuis deux ou trois épisodes.
L'arc a duré 4 parties en tout, dont un numéro spécial, le Final Crisis, Rage of the Red Lanterns, qui était paru dans les pages du DC Universe. Mais donc finalement, dans Green Lantern même, l'arc sur les Red Lanterns n'a duré que 3 épisodes.
A duré 3 épisodes, mais je crois qu'il a commencé il y a. Je me demande si ça n'a pas commencé quand j'ai commencé à vous rejoindre pour le podcast, donc ça fait un bail.
Non, je me demande s'il a pas commencé en janvier, moi.
Bon?
Je crois qu'on avait eu 2 épisodes en janvier. Je voudrais pas dire de bêtises.
Ah ouais, si si, ouais, t'as raison, puisque c'était la fin de.
Ou il a commencé en décembre, peut-être.
C'était la
Décembre ou
fin
janvier.
de tu sais, du truc en 12 parties
Ouais,
avec les origines
le
de.
6, en fait. 7, pardon.
Ouais.
7 parties. Pas de
Oui, j'ai toujours l'impression que c'est toujours un peu plus long. C'est comme c'est
loser.
bizarre. Comme c'est bizarre.
Donc voilà, bon,
D'accord.
un bon épisode quand même, hein. Franchement, c'est vrai que.
Oh, voilà, quoi. Ça commence bien le mag.
C'est vrai que bon, le petit point négatif peut-être, c'est que c'est quasiment que de la baston, mais il y a quelques grosses infos qui sont disséminées par-ci par-là qui vont prendre leur importance par la suite. Donc voilà, on n'a pas encore
Je suis peut-être
le.
juste moins fan de sa nana, là, comment s'appelle-t-il? Carol Ferris, qui
Oui.
devient une violette lanterne, bon, c'est.
Il y avait le petit passage Origin Anomens qui racontait grosso modo.
Avec Balafré, là?
Oui, voilà, avec Scar.
Oh, je crois, ouais.
D'accord. Bon, là, c'est pareil, rien de transcendant. On peut passer, quoi. On va passer donc justement à la suite. C'est le JLA numéro 31 et 32. Scénario de Dwayne McDuffie, dessin de Shane Davis pour le 31, Rags Morales pour le 32, à l'ancrage Sandra Hope pour le 31 et John Dell pour le numéro 32. D'ailleurs, au niveau du dessin, on voit la différence. Personnellement, Rags Morales, j'aime beaucoup moins que Shane Davis. Après, c'est les goûts personnels, mais...
Non, moi j'ai préféré les dessins effectivement du premier que du second.
Bah là, c'est deux épisodes qui sont toujours dans l'arc de la dernière fois, mais qui sont une espèce de petite pause. Où finalement, bah, la ligue est en très mauvaise passe puisqu'il n'y a plus personne.
Oui, voilà, et on sent encore une fois que le scénariste, donc à savoir Dwayne McDuffie, en fait, écrit selon les bons vouloirs de DC Comics, puisqu'il subit encore bah, tout ce qui se passe dans l'univers DC, quoi. C'est-à-dire que là, c'est le démantèlement de son équipe. Et du coup, bah, effectivement, comme tu le disais, il lui reste plus grand monde. Superman est parti sur New Krypton, comme on va le voir bientôt en français.
J'adore l'ordre de parution paninien.
Ouais, voilà. De toute façon, il en parle, hein. On le voit dans l'épisode.
Bah oui, c'est pour ça.
Sur la situation. Wonder Woman, bah, ça, on le saura jamais en français puisque les épisodes qu'on devait voir ne sortiront finalement pas, hein. Mm-hmm. Voilà. Donc, mais enfin, elle est appelée à Themyscira. Enfin, je sais pas comment tu le dis d'ailleurs. Themyscira?
Ouais.
Voilà, bon, on va dire Themyscira alors. Et puis Batman est mort, comme on l'a vu, ça par contre.
Donc voilà quoi.
Donc les trois grands noms qu'on retrouve dans Trinity qu'on ne fait pas d'ailleurs ce mois-ci.
Qu'on va pas faire, oui, puisque le dernier était tellement peu passionnant qu'on a décidé de sauter celui-ci.
On viendra peut-être plus dessus vers la conclusion.
Dans 2 mois pour le dernier. Quoi.
Bah, exactement. Et tu viens de m'apprendre que dans 2 mois c'était déjà le dernier, parce que je pensais que ça allait encore durer très longtemps.
Non, c'est ben non, on aura fait les 52 épisodes.
D'accord, bah très bien, quelle bonne nouvelle.
Enfin, les 2000 épisodes, pardon.
Ouais. donc du coup pour revenir à nos moutons, les trois principaux n'étant plus là, ça s'effiloche vite quoi pour l'équipe. En plus il y a eu les morts, etc. durant Final Crisis. Bah, Black Canary essaye de remotiver les troupes, et il y a surtout
c'est bien que tu y viennes, parce qu'alors là, ça, c'est du grand n'importe quoi. Et là, c'est pas la faute à Panini, cette fois-ci, c'est la faute à complètement à DC Comics.
Bah, James Robinson, peut-être, alors.
Qui a tout ruiné.
Attends. Donc, il y a Hal Jordan et Holly...
Green Arrow.
Qui font leur propre équipe dissidente, quoi, on va dire, de la Justice League. En fait, voilà. Ils montent à deux une nouvelle équipe. Ils recrutent pas mal de monde. Et donc, c'est pour la mini... Enfin, la... Oui, il y aura une mini-série en 12, je crois.
7.
Décidément. Donc, une mini-série en 7 qui s'appellera Justice League Cry for Justice.
C'est ça.
Et qui racontera donc ce que fait cette nouvelle équipe. C'est ça, hein,
C'est ça. Scénarisé par James Robinson.
James Robinson, une série qui a été très très critiquée. Alors je sais pas ce qui se passe dedans exactement. Moi ça m'intrigue en tout cas. Et j'espère qu'on l'aura en français parce qu'ils savent pas trop s'ils vont la publier dans les pages de DC Universe ou ailleurs ou pas du tout. Donc voilà. Pour le moment on sait pas. Mais vas-y, écoute, exprime-toi. Tu allais dire
déjà,
quelque chose.
Déjà, première page, première erreur. Si on regarde bien la première page, on a Zatanna qui parle à Wonder Woman mais qui l'appelle Dina.
Ouais.
Alors qu'en fait, c'est pas Wonder Woman qu'elle parle, c'est donc à Black Canary qui s'appelle Dina. Si c'était Wonder Woman, ça aurait été Diana. Donc déjà, il y a une grosse erreur là. Donc je sais pas ce qu'a fait l'éditeur, mais ça.
Ah tiens, c'est bizarre. Alors je me demande si en français ils ont. Je pense que Panini n'a pas vu.
Ils ont peut-être corrigé, je sais pas, mais moi je trouve ça personnellement inadmissible.
Ouais.
De confondre le nom d'un personnage, ça c'est voilà quoi. C'est un boulot d'éditorial vraiment raté.
En même temps, Stan Lee a appelé Peter Parker, Peter Palmer hein, dans les premiers.
Oh là, quelle honte.
Ah mais il arrêtait pas de se gourer Stan Lee, c'est pour ça qu'il faisait des noms très courts. Bruce,
On va dire que le K et le M sont pas trop loin sur le clavier. Voilà, ça va être l'excuse à 2 francs. Donc sinon, pour continuer dans les erreurs, là c'est pareil, Cry for Justice est complètement ruiné, puisque au moment de Cry for Justice, on savait qu'il allait avoir une deuxième équipe, on savait pas forcément qui l'avait formé, etc. On apprend tout ça dans le premier numéro. Or, le premier numéro... l'épisode 31 de la Justice League est daté de mai aux États-Unis, donc ça veut dire qu'il est sorti en mars, puisqu'il y a toujours 2 mois d'avance.
Mmh.
Et le premier numéro de Cry for Justice est sorti en juillet. Donc ça veut dire qu'à partir de mars, on savait que Hal et Holly formaient leur équipe, alors que la mini-série allait sortir que 4 mois plus tard.
D'accord.
Donc voilà, ça c'est franchement un boulot éditorialiste complètement raté.
Exactement, oui.
Donc voilà, là c'est pas la faute de Panini pour une fois, donc ils y peuvent rien les pauvres. Pour revenir à l'équipe, bon bah dans l'équipe il nous reste simplement que donc Black Canary et encore elle est pas sûre de rester.
Ouais.
On a
Firestorm.
Firestorm. On
Enfin
a
le nouveau, hein.
le nouveau
Enfin on va
Firestorm,
dire.
ouais. La nouvelle Docteur Light qui a récupéré ses pouvoirs dans le dernier épisode. Vixen et le Green Lantern. Aide-moi, j'ai oublié son nom, c'est une honte.
Bah c'est le Green Lantern Black. Alors justement, moi
John
aussi j'ai oublié
Stewart,
son nom.
merci.
John Stewart, voilà.
Voilà, John Stewart, c'est revenu à la dernière seconde. Voilà, il ne reste plus que ça dans l'équipe. Donc bon,
C'est vrai que c'est pas très très joyeux non plus, quoi. Voilà, ça fait.
non, je vais être honnête, hein. Les épisodes sont pas forcément mauvais, mais je me suis
Ah non, non, mais
profondément
moi je me
ennuyé à
suis
la
pas ennuyé
lecture,
en
quoi.
fait. Je me suis pas ennuyé parce que
Ah ouais?
justement il y a un gros chamboulement. On se dit mais alors qu'est-ce qu'elle va faire, etc. Bon, enfin voilà.
Moi, je me suis vraiment ennuyé en fait à la lecture.
Tu t'es ennuyé, toi?
C'est pourtant pas très mauvais, mais franchement, j'étais vraiment pas dedans, quoi. Ça traîne en longueur et
Tu connaissais peut-être en fait les équipes qui allaient y avoir, quoi, en fait. Moi en
non,
fait
du tout.
j'avais pas vu du tout que, enfin je savais pas qu'il allait y avoir une équipe avec Holly et puis Hal, quoi. Donc
Ah ça, oui, ça, j'étais au courant, mais non, enfin, je sais pas qui va rester dans la Justice League, quoi. Mais non, je sais pas. J'ai trouvé que ça traînait en longueur, quoi. Honnêtement, j'ai hâte que cet arc se finisse. Il ne reste plus qu'un seul épisode de McDuffie qu'on aura dans 2 mois normalement. Et après, ce sera plus lui sur le titre. Je sais plus qui prend la suite d'ailleurs.
Ce sera Robinson, James Robinson,
Non,
justement.
pas tout de suite, pas tout de suite.
Ah, d'accord.
Il y a un scénariste qui fait un intérim là. En fait,
On les aura pas, je pense, en français, hein.
McDuffie devait faire une pause, remplacé par ce gars pendant 1 ou 2 mois. Puis finalement, il ne revient pas sur le titre puisqu'il a été purement et simplement viré du titre pour avoir dit comment ça marchait chez DC. Et normalement, je crois que c'était JM DeMatteis qui devait le remplacer, avec Mark Bagley au dessin. Puis maintenant, c'est Robinson qui va reprendre la suite aux États-Unis. Les prochains
Bon, je pense
scénaristes à
qu'on.
venir, mais je ne sais pas si on les aura en France. Hein.
Non, non, il y a des chances qu'on n'ait aucun épisode jusqu'à ceux de Robinson. Ce qu'on aura surtout dans les prochains mois, c'est du Green Lantern, du Blackest Night. Titan s'arrête aussi. On aura peut-être. Non, non, on aura peut-être la JSA de
Non,
DeMatteis,
ils arrêtent la JSA.
je crois.
C'est prévu d'arrêter la JSA, donc
Ah oui, bon, bah alors.
voilà. Donc
Alors, on
JSA,
a
voilà.
Flash aussi, Flash, le retour de Flash.
On va justement y passer, la JSA. C'est le numéro 23, scénario de Jeff Jones. Au dessin, on retrouve Jerry Ordway et à l'ancrage, Bob Wiasek. Donc déjà, c'est du old school au niveau du dessin. Et c'est plutôt plaisant, je trouve, parce que ça colle bien avec l'ambiance du numéro.
Oui, c'est vrai. Et puis, ça commence sur l'éviction de Doc-Man, au fait.
Là encore, hein, c'est un épisode de remaniement dans l'équipe, hein, une fois de
Ouais,
plus.
exactement. Bah, c'est les retombées, de toute façon, de l'arc avec Cog. Enfin, des arcs avec Cog, puisqu'il y en a eu plusieurs. Et voilà, donc ça commence déjà par l'éviction de Doc-Man, qui est pas content. Et on le comprend quand même, puisque c'est l'un des piliers de l'équipe qui. On lui demande de prendre congé, vu que ses positions étaient un petit peu. Enfin, indiscutable, on va dire.
Voilà. On a la résurrection d'Isis, la copine de Black Adam, et donc
Aussi,
Black
ouais.
Adam qui revient dans la partie. Captain Marvel est banni, donc voilà, on a le retour vite fait de Marie Marvel.
Ouais. En fait,
Donc
ça, voilà, c'est vraiment centré sur les Marvel, quoi.
ouais, la Marvel Family.
La Marvel Family de chez DC.
Normalement, c'est un arc en deux, hein, si j'ai bonne mémoire, et ce sera le dernier arc de Jeff Jones sur le titre. Donc
D'accord. De
normalement,
toute
on
façon,
aura
il est
la
épaulé
f...
par Jerry Ordway, comme tu le disais.
ouais. On aura la fin le mois prochain, et puis ce sera la fin de la JSA normalement dans les pages de DC Universe. S'il continue ce qui était prévu, en tout cas ce que Panini a annoncé il y a déjà quelques mois. Donc voilà. Moi franchement j'ai bien aimé l'épisode là, tu vois, au contraire de la JLA, j'ai trouvé ça sympa. C'était un petit peu lent, c'est sûr, mais en tout cas au départ, et puis après ça s'accélère plutôt pas mal, donc. Non, je sais pas, moi, un épisode qui m'a beaucoup plus accroché, en tout cas.
Bah, faut voir ce que donne la deuxième partie. Là, on a eu le retour donc de Black Adam et puis de d'Isis et voilà. Et puis il se passe un petit truc à la fin aussi.
Oui, bah, on va pas le révéler, on en parlera. On laisse aux gens la surprise de le découvrir, et puis je pense qu'on en reparlera de toute façon la
Voilà,
prochaine
le mois
review,
prochain.
puisqu'on pourra pas
Enfin, dans 2 mois.
on pourra pas faire autrement qu'en parler. Ok, dernier épisode du mag, c'est le Titans numéro 10. Donc là, c'est la fin de l'arc Jericho. Ah oui, j'ai peut-être annoncé qui est au crédit quand même. Au scénario, on retrouve Judd Winnick. Au dessin, on a Howard Porter et à l'ancrage, Wayne Faucher.
Ah, c'était Howard Porter qui a fait des gros yeux comme ça.
Ouais. Bah, Howard Porter, qui est toujours pas forcément bien remis de son accident, qui recommence à dessiner. Alors, c'est sûr que c'est plutôt pas mal pour un gars qui avait perdu l'usage de son bras pendant quelques années.
À chaque fois, je fais la boulette, tu sais, je sais plus qui c'est.
Mais
Tu le
bon,
rappelles?
franchement, c'est pas superbe, quoi. Faut être honnête, c'est vraiment pas superbe. Superman a une tronche sur certaines cases plus qu'horrible.
Ouais, ça me fait quand même penser, alors si on peut le rapprocher d'un dessinateur, du mec qui était sur Exil là pendant un certain temps. Les exilés.
Oui, mais alors là, son nom me revient pas tout de suite. Donc,
Enfin tu vois de qui je parle, quoi. Tu vois, dans le
oui.
style, ça me faisait un petit peu penser à ça.
Son nom me revient toujours pas, donc je
C'est
vais
vrai que c'est
arrêter de
pas
chercher.
catastrophique, mais c'est pas agréable, quoi.
Ça me prend de la tête tout le podcast, ça, je le sens. Ce nom qui revient pas. Bon, bah, c'est la fin de l'arc avec Jericho. C'est ni plus ni moins qu'une grosse baston dans laquelle la JLA intervient. Jericho saute de corps en corps et...
Voilà, non mais c'est ce qu'on craignait quoi, c'est ce qu'on disait l'autre fois, je me rappelle, est-ce que la fin de l'arc ça va pas être une baston toute simple? Eh ben si.
Ce qui me gêne, c'est que ça fait deux arcs de suite que ça se termine pareil, avec finalement l'histoire qui est pas vraiment résolue. Les Sons of Trigon, on va forcément en entendre reparler un jour, puisqu'ils ont pas vraiment battu. Là, Jericho disparaît, il va falloir qu'il parte à sa recherche.
Bon, en fait, le gros événement, c'est ce qui se passe dans le backup, enfin dans l'espèce de truc à
Voilà,
la fin.
le petit Origin Anomans. Et donc Nightwing décide de quitter l'équipe, puisqu'il est appelé à rester à Gotham pour s'occuper un petit peu de la ville, puisque Batman est parti, donc il faut essayer de mettre de l'ordre pendant l'absence de Batman, et sa présence est plus que nécessaire.
Enfin, pendant l'absence, qui risque d'être sacrément prolongée puisqu'il est mort.
Oui.
Du moins, pour le moment. Voilà.
Mais en fait, il est pas mort, il est dans le temps. Mais ils ne le
Oui.
savent pas.
Oui, voilà, ils ne le savent pas. Comment pourraient-ils le savoir? Voilà.
Donc voilà, donc non, bah, bof bof, quoi. Franchement,
Ouais, bof, bof, moins calamiteux que le premier arc, avec les
Ouais.
fils de Trigone,
Oui, c'est sûr, j'ai préféré aussi cet arc-là.
mais bien plus divertissant, mais bon, un peu trop long, quoi. Enfin, de toute façon, ça nécessitait pas autant de parties.
Je suis pas du tout fan de Winnick sur les Titans, hein, honnêtement.
Non, non, ben, je sais pas s'il y reste longtemps, d'ailleurs.
Aucune idée, de toute façon, c'était le dernier épisode des Titans en français, donc voilà. On
Eh
aura pu se
bien.
soucier de cette série. Voilà, bon bah ça c'est fini pour le DC Universe numéro 56. On va passer maintenant au premier numéro de Ultimate Avengers. Ah non, pardon. Ultimates, je crois. Comment ça s'appelle?
Ah ben voilà, tu vois, c'est la grosse question déjà. Bonne transition, tu vois. Comment ça s'appelle ce nouveau truc? Eh ben, je pense que ça s'appelle Ultimate Comics Avengers numéro 1.
D'accord.
Mais qu'aux États-Unis, comme ça les saoulait, ensuite ils ont appelé ça Ultimate Avengers, en fait. Et il y aura même Ultimate Avengers volume 2, Ultimate Avengers volume 3, etc.
Oui, le tag Ultimate Comics est resté 2 mois à peine pour certaines séries, et ensuite ça s'appelait de nouveau Ultimate plus le nom de la série, quoi.
Ouais, parce
C'est
que
bien la
c'était
peine
trop
de faire un
compliqué.
relaunch de la base complète, enfin de l'univers, parce que ça sert à rien. Au scénario, on retrouve Mark Millar. Au dessin, Carlos Pacheco, à l'ancrage, Danny Mickey sur le premier, accompagné de Dexter Vines, Victor Olazaba et Alan Martinez pour le numéro 2. Donc, c'est la nouvelle série Ultimate Avengers, comme on le disait, qui se situe après les événements d'Ultimatum.
Ouais, c'est le renouveau au fait de l'univers Ultimate dans sa globalité et plus particulièrement donc là avec cette série des Ultimates quoi. Et c'est censé être la suite des deux premiers
Finalement,
volumes
il
d'Ultimates.
n'y a pas vraiment d'équipe pour le moment de composer, hein, puisque y avait une mission entre Hawkeye et Cap qui pourchassait des gens de l'AIM.
Voilà.
Et Cap se fait carrément défoncer, vu dans l'état où il sort, on peut pas dire autrement, par un crâne rouge bien différent de
Ultimatisé, ouais.
voilà, bien différent de notre univers, beaucoup plus jeune. Pourquoi jeune? Beaucoup
Un
plus
peu, beaucoup
jeune.
plus Joker, quoi.
Ouais, beaucoup plus baraque aussi.
Ouais, beaucoup plus Heath Ledger dans le rôle du Joker de Dark Knight, j'ai trouvé. Faisait un petit peu penser à ça, le côté un peu cinglé comme ça.
Oui, c'est vrai. Oui, parce que quand on
Mais.
apprend comment il a fait son masque, si on peut appeler ça un masque.
Ouais. Bon
Voilà.
alors, bon déjà sur le premier épisode, par exemple. Pour gagner un autre No Prize Comic City, vous pouvez essayer de le lire en moins de 3 minutes. Si vous y arrivez, vous avez un No Prize aussi. Parce que franchement, ça se lit mais super vite, quoi.
Moi, en fait, le problème, c'est que. Alors, on va quand même. On va peut-être pas. On le révèle ou pas, qui est Crâne Rouge?
Je pense que tout le monde le sait, puisque c'était dans toutes les previews, enfin, c'était dès qu'ils ont parlé de ce comics-là, même aux États-Unis, même dans la preview, pour acheter le comics en question, c'était marqué, Captain America va affronter.
Son fils, on
Voilà,
va
son
dire.
fils, Crâne Rouge, au fait, puisque dans l'univers Ultimate, Crâne Rouge est donc le fils de Captain America, ce qui est une explication vraiment, vite expédiée d'ailleurs.
Oui, bah on voit le truc, et puis on voit comment il a évolué, qu'il a évolué en centre, puisque bah, comme c'était une expérience de l'armée, Cap, il voulait pas le laisser échapper, qu'il était super balèze, etc. Alors, moi franchement j'ai trouvé le pitch de départ pas mal, franchement. L'histoire je la trouve plutôt sympathique, ce qui m'a assez surpris parce que je m'attendais pas à aimer, honnêtement.
Non mais en fait, le truc que je reproche, c'est juste sur le premier épisode, parce que ça, les origines, c'est dans le deuxième, en fait, si je me souviens bien. Mais dans le premier épisode, ce qu'on apprend à la fin, en fait, le cliffhanger final, c'est le truc que les lecteurs savaient déjà en ayant lu la preview. Et au fait, Captain America, enfin même pas la preview, le pitch quoi de l'épisode. Et au fait, Captain America, lui, l'apprend à la toute fin, alors que les lecteurs le savent depuis 6 mois, quoi. Enfin maintenant, ça fait 1 an et demi aussi, enfin 1 an, je crois, aux États-Unis. Donc voilà quoi, c'était un peu un pétard mouillé. Bon, après c'est vrai qu'il y a plus de surprises dans le deuxième épisode. On s'intéresse à ses origines.
Et du coup, en fait, Carol Danvers, qui est la chef du Shield, va aller chercher de nouveau Nick Fury, qui avait été viré, pour essayer d'arrêter Cap, qui est parti un petit peu en sucette, pour essayer d'arrêter.
Bon, enfin, ils lui cachent quelque chose. Ils veulent pas d'ailleurs qu'il découvre que Crâne Rouge est son fils.
Bah, dommage, c'est trop tard.
Bah ouais, de toute façon c'est trop tard. Et Cap se la joue un petit peu à la Jack Bauer, quoi. C'est-à-dire que il se barre. D'ailleurs, il nous fait la même sortie que durant Civil War.
Moi, le problème en fait avec ces épisodes, c'est que finalement, je me dis, bah, ça aurait pu tenir en un seul épisode, quoi.
Ah
Là,
mais de
c'est
toute façon, je
vraiment
pense que.
trop décompressé.
Ouais bah de toute façon, je pense que l'arc au final aurait pu tenir en 2 épisodes, quoi. Enfin, je pense qu'il sera en 6, mais ou en 5. Je crois que c'est en 5, ouais. En 5 épisodes, bon, voilà, quoi. Je pense qu'il va pas se passer énormément, énormément de choses.
Moi,
Bah,
j'ai pas beaucoup.
les origines de Crâne Rouge, ouais, c'est le point intéressant, peut-être. Moi, ça m'a fait penser aussi à, enfin, je sais pas, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Son virement de, son changement de caractère, j'ai trouvé un peu soudain quand même.
Ouais. Bah, moi, comme je te dis, j'aime bien l'idée de départ, même si je trouve que l'exécution finale est un peu trop lente. En 2 épisodes, on a l'impression de ne pas avoir lu grand-chose et c'est un peu dommage, quoi. Donc à réserver à ceux qui aiment bien l'univers Ultimate, qui ont envie de lire une histoire sympathique, mais voilà, quoi,
Moi
qui
je
prend
suis
son temps quand même, hein.
ouais, moi je suis juste plus intéressé par le personnage qui est introduit à la toute fin. On va pas le nommer, mais enfin voilà quoi. C'est peut-être un ennemi, un futur ennemi qui pourrait être intéressant.
Mais je l'avais oublié celui-ci, tiens. C'est bien que t'en reparles.
Voilà.
Oui, à voir. Donc, pas grand-chose à dire de plus sur Ultimate Avengers, ça c'est très rapidement. Donc, on passe maintenant au X-Men Extra numéro 79. Ce sont donc les premiers épisodes d'une nouvelle série qui est publiée dans les pages de ce X-Men Extra. C'est X-Men Forever. Scénario de Chris Claremont, dessin de Tom Grummett, ancrage de Corey Hamcher, pardon. Ce sont les épisodes 1 à 5, plus un petit bout du Alpha, puisque le Alpha aux États-Unis aurait publié simplement X-Men volume 2, 1 à 3, donc la deuxième série qui avait été lancée, et le combat contre Magneto, qui se situe juste avant le début de cette série. Et il y avait une dizaine de pages preview de ce que la série allait être. Donc, ce X-Men Forever, c'est en fait une série qui sort déjà tous les 15 jours aux États-Unis, à préciser. Et d'ailleurs, Tom Grummett fait un très très bon boulot puisque ce sont des épisodes de 24 pages qui fait quasiment le même boulot que fait Mark Bagley sur Trinity à dessiner, lui dessiner 12 pages par semaine. Lui finalement, on dessine 24 pages toutes les 2 semaines. Ça revient au même nombre de pages et je trouve d'ailleurs qu'il s'en sort plutôt pas mal.
Ah oh mais Tom Grummett, il a un trait par moment, on dirait du John Byrne. Quand il y a, par exemple, il y avait une planche avec Cortez qui saisit, je crois, Rogue à un moment donné, et on dirait vraiment un dessin de Byrne.
Je pense qu'il a dû s'inspirer volontairement de cette époque-là, puisque c'est le retour de Claremont sur les X-Men, et quelle est la plus grosse période de Claremont sur les X-Men? C'est le Golden Age avec John Byrne et Terry Austin à l'ancrage. Donc
Ouais.
voilà, je pense qu'il a dû pas mal s'inspirer de son style, et d'ailleurs ça fait très old school, ça fait même beaucoup plus ancien au niveau des dessins que les années 90 dans lesquelles c'était normalement, dans lesquelles étaient sortis les premiers numéros, quoi.
Bah ouais, non, enfin ça fait très John Byrne, alors que là c'était Jim Lee quoi, dessin à l'époque. C'était ouais. L'arrivée de tous ces gens-là, d'Image, enfin qui allaient fonder Image ensuite. Et effectivement, là ça fait peut-être un petit peu plus rétro encore, mais bon.
Ben, moi, de ce côté-là, ça m'a bien plu en tout cas.
Ouais, la partie graphique est vraiment très bonne et on retrouve bien d'ailleurs en plus les costumes d'époque aussi.
Ouais.
Ils ont tous leur costume qu'ils avaient à l'époque en 91 donc c'est plutôt sympa quoi de prime abord.
Ouais, puis bon, comme je disais, mention spéciale pour dessiner 24 pages tous les 15 jours quoi.
Ouais.
Là franchement, faut avoir un bon coup de crayon.
Par contre en France, on aura que la suite qu'en novembre.
Ah ouais, ça va être long. Sachant voilà. Qu'aux États-Unis vient de sortir le numéro 24. Qui est la fin du, on va dire, de l'histoire pour le moment.
Et sachant que ça a plutôt bien fonctionné, donc il y aura un New Mutants Forever et un X-Factor Forever aussi.
X-Factor Forever qui a déjà commencé, qui est écrit par Louis Simonson.
Ouais. Ouais, c'est, ils reprennent les auteurs, en fait, de l'époque. Et,
qui apparemment alors... serait en 6 épisodes, hein, si j'ai bien compris, le X-Factor. Donc, à voir si ça se confirme, si c'est bien une mini-série, parce que c'est pas très très clair, ça.
Sur donc, l'histoire.
Voilà, sur l'histoire. Alors, c'est censé être ce que Claremont aurait fait s'il n'avait jamais quitté le titre X-Men en 91.
Ouais.
Alors, tout de suite, moi, ma position là-dessus, c'est mon cul. Je crois pas une seconde.
Ouais, non, mais moi aussi, j'avais de sérieux doutes. Je pense que c'est juste pour vendre, en fait, l'histoire qui nous dit ça. Mais en gros, ça a été tellement aménagé. Au final, il doit rester quelques petits éléments en fait de ce qu'il avait voulu faire à l'époque, comme, on va le dire de toute façon.
On va dire, c'est dès le début, hein. Vas-y, je te laisse faire.
Oui, en gros, on va résumer vite fait. Déjà, c'est Nick Fury qui reprend le contrôle au fait des mutants, des X-Men. Mmh. Le Shield va superviser au fait leurs actions, voilà. Ils sont amenés à affronter Fabian Cortez dès le premier épisode parce que si tu te souviens bien, en fait, ils avaient affronté Magneto.
Oui, avec ses acolytes.
Avec ses acolytes, dont Fabian Cortez, et donc ils le retrouvent en Espagne, je crois d'ailleurs que ça se situe.
Oui, c'est en Espagne. Oui.
Et il y a une petite confrontation avec lui, et d'ailleurs il est bien plus fort au fait qu'il ne l'est normalement. C'est-à-dire que Claremont avait visiblement prévu d'en faire un personnage un peu plus imposant que ce qu'il est normalement dans les comics, enfin j'ai cette impression.
Oui, clairement, mais je suis pas forcément fan hein, de cette version-là.
Et ça se termine sur au fait Jean Grey a l'air d'avoir encore des problèmes avec la force du Phénix. Et surtout à la fin de l'épisode, on retrouve. Elle est en communication avec Wolverine par télépathie. Wolverine qui est on ne sait pas où d'ailleurs. Et il se fait cramer par une espèce de on sait pas par qui quoi, il se fait complètement exploser par quelqu'un et à la fin des flics retrouvent son cadavre complètement calciné dans Central Park. Donc voilà quoi, Wolverine meurt dès la fin du premier chapitre. Il y a aussi un gros truc aussi qu'il faut préciser, c'est que Jean Grey visiblement est totalement sous le charme de Wolverine. Ce qui me semble un peu poussé en fait, puisque j'avais pas cette impression du tout à l'époque.
Pas autant, c'était sous-jacent, mais c'était pas autant mis en avant, quoi.
Ouais, là d'un seul coup, juste après donc l'aventure normalement avec Magneto, Jean Grey est totalement en raid dingue de Wolverine et voilà, donc ça m'a un petit peu gêné déjà. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de changements déjà, même de prime abord.
Il y a même beaucoup de changements sur beaucoup de personnages, comme Kitty qui récupère une griffe de Wolverine vu qu'elle était en train de phaser quand Fabian Cortez a fait péter les pouvoirs.
Oui, ça au début j'avais pas compris d'ailleurs pourquoi elle avait réussi à récupérer une griffe. Au fait, c'est après seulement que j'ai remonté les pages et je me suis dit ah bah oui effectivement.
Beast l'explique aussi quelques pages plus loin. Au moment où on découvre qu'elle a la griffe, Beast l'explique quelques pages plus loin. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris sur le moment, ça touche normalement, c'est expliqué. Donc voilà. C'est d'ailleurs un des gros soucis, c'est que Claremont a aussi la narration de l'époque les personnages en pensée expliquent exactement ce qu'ils font. Et c'est
oui,
un peu lourd.
C'est très verbeux. Alors ouais. je sais pas comment c'est en VO, mais en tout cas la traduction française, faut que je le précise, c'est vraiment catastrophique. Alors je sais pas si c'est pour coller au style de Claremont, mais il y a vraiment
très lourd parfois. Il y a des phrases qui sont très lourdes.
Là, c'est, je sais pas, des personnages n'arrêtent pas de dire les amis, les copains. Allez, venez par là, les copains. On se croirait dans Salut les musclés.
Oui, d'accord, super.
Il y a, voilà quoi. Il y a vraiment un moment quand ils ont le crash d'avion au début. Il y a un personnage qui dit, c'est pas la première fois qu'on est éjecté dans l'espace. Bon, bah, ils sont pas dans l'espace, ils sont juste en l'air, quoi. Et puis, il y a plein de trucs comme ça, mais
Si
même
je me
des.
rappelle bien, dans la VO, ça va être c'est pas la première fois qu'on est obligé d'atterrir nous-mêmes ou un truc dans le genre. J'ai plus les mots exacts en tête, hein, donc.
Moi non plus, j'ai plus les mots exacts, mais à un moment, par exemple, il y a The Beast qui dit à chaque fois on est eu.
Ouais,
Enfin,
d'accord.
des tournures de phrases comme ça, mais c'est bizarre, quoi. C'est vraiment des termes ou bien des vieilles expressions françaises qu'on n'utilise plus du tout, quoi. Je sais plus où. Et quelquefois, il y a même des insultes comme ça qui sortent, qui collent pas du tout au fait au personnage.
Mais moi, il y a des trucs hein, qui me gênent, hein, franchement. Le premier gros truc qui me gêne, et ça fait pourtant un an que je le sais depuis que la série est sortie aux États-Unis, et ça passe toujours pas, c'est le changement de nom pour Gambit. Il est passé de Rémi Lebeau à Rémi Picard, et moi, ça peut pas passer, quoi.
Ouais, bah pour moi si, parce que voilà quoi, un petit côté Picard pour le temps que j'ai passé en Picardie, ça te ferait plaisir toi en plus qu'il soit appelé comme les gens de Niort. D'ailleurs, comment s'appellent les gens de Niort?
Les Niortais. Mais
Voilà, bah Rémi Niortais, tu serais
n'étant
content.
pas
Bah
Niortais
si, tu sais.
d'origine, je m'en fous un peu. Non, mais c'est le fait de changer le nom d'un personnage, surtout que c'est un personnage que j'appréciais beaucoup. Donc voilà, ça me gêne
Bon
profondément, quoi.
alors cela dit, je pense que franchement, il doit le nommer une fois Rémi Picard dans les cinq. Les cinq premiers chapitres.
Ouais, sauf que à chaque numéro VO, on a le récapitulatif de l'équipe en première page avec la page de récap, donc on revoit écrit à chaque page, enfin à chaque numéro. Donc
Bon, et
voilà.
en même temps, donc comme je disais l'autre fois hors antenne, on va dire, comme c'est Clermont et que c'est lui qui a créé quand même le personnage de Gambit, à la rigueur, s'il veut vraiment changer son nom.
Non, rien à foutre, non, je suis pas d'accord.
Bon,
Il
ben
aurait dû
voilà.
me consulter avant.
D'accord.
Voilà. Bon, il y a des idées intéressantes, hein, du genre la vie limitée des mutants, que s'ils utilisent beaucoup trop leur pouvoir, bah, ils
Voilà,
meurent
ça
plus
c'est la
vite.
révélation finale, c'est au fait ils se rendent compte que Xavier, le professeur Xavier leur a caché depuis le début que bah ils savaient que à force d'utiliser leur pouvoir, les mutants diminuaient leur durée de vie, quoi, en fait, et mouraient vers 40, 50 ans, quoi.
Pareil,
Et d'ailleurs.
l'ajout de Sabretooth dans l'équipe. Bon, c'est un retour à ce que Scott Lobdell avait fait fut un temps, puis je crois que c'était Nicisa à l'époque qui était sur X-Factor, ou à l'époque où il y avait Forge et Sabretooth dans l'équipe.
Il y a plusieurs trucs assez sympas qui ont été refaits ensuite, puisque au fait les plans de Claremont ont été ensuite adaptés dans les comics au fur et à mesure du temps. Par exemple, donc la mort de Wolverine, il avait prévu Claremont de le tuer, mais de le ressusciter comme assassin de la main, et ça a été fait par Millar dans Enemy of the States, il y a quelques années. Donc voilà, donc il y a quelques éléments comme ça connus des projets de Claremont qui ont été finalement repris des années plus tard par d'autres scénaristes.
De toute façon, ça n'aurait jamais pu être possible puisque Marvel n'aurait pas tué la poule aux œufs d'or,
Voilà,
Wolverine
alors
étant un personnage.
effectivement, à l'époque, Marvel était furieux envers Claremont puisque Claremont demandait qu'on tue Wolverine. Or, Wolverine avait sa série aussi,
Bah, bien
Wolverine,
sûr.
qui avait commencé quelques années auparavant et qui fonctionnait très bien. Claremont voulait aussi récupérer Shadowcat et Diablo. Enfin, Nightcrawler
De
en VO. Et
Excalibur. Ils étaient chez Excalibur à l'époque.
voilà, exactement, ils étaient chez Excalibur et donc pareil, ça aurait plombé la série Excalibur et Marvel ne voulait absolument pas en entendre parler. Donc toutes ces choses ont fait que Claremont pouvait pas mettre à exécution ses plans et du coup il est parti suite à de nombreux désaccords avec les équipes créatives à l'époque. Bah là on retrouve quand même un paquet de choses, enfin soi-disant, qu'il aurait voulu faire. Moi je pense que déjà tout le truc du consortium là, c'est un gros rajout pour X-Men Forever.
Je pense aussi, ouais. Puis d'ailleurs, cette double storm, on va pas en dire plus puisque
Non, on va pas en dire
on va
plus. En
vous
fait,
laisser découvrir.
voilà, le pitch c'est principal, c'est que Wolverine est tué, il y a un traître dans l'équipe, donc est-ce que c'est Gambit par exemple, puisque c'est la question qu'on se posait à l'époque, est-ce que c'est Gambit le traître, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, est-ce que Claremont avait une autre idée pour l'identité du traître? Eh bien là on a des éléments de réponse en fait sur ce qu'il voulait faire.
Ben, moi justement, ça amène beaucoup plus de questions. Alors, j'ai envie de savoir les réponses, mais je suis pas sûr que je vais les aimer. Donc
Ouais, voilà,
j'attends de voir. J'attends de
en même
voir.
temps, au début, tu vois, je me disais, ouh putain, où est-ce qu'il va, ça m'a l'air totalement brouillon. Et au fait, à la fin de ce premier arc, puisque c'est en 5 parties, on comprend bien où il va et voilà quoi, il place ses pions, et finalement c'est assez intéressant au final quand même.
Ouais, moi j'ai pas trouvé ça désagréable quand même, hein. D'ailleurs j'ai été surpris parce que je m'attendais vraiment pas à grand chose, je m'attendais même, pour être honnête, à une bouse, donc là voilà, je suis plutôt surpris en bien, je suis pas convaincu
Pas
quand même.
du mauvais Claremont quoi, parce qu'il y a eu vraiment des histoires pas terribles qu'il nous a fait. Bon, par contre, le
À
style
part
est
le
tout
style, ouais,
simplement.
voilà. Le style est vraiment, franchement, faut être honnête, c'est chiant. À notre époque, lire un truc comme ça, c'est un peu chiant, quoi.
Et
Alors, c'est
c'est-à-dire qu'à
sympa
chaque
quand on lit
fois.
des oldies, mais quand on lit des trucs récents.
Ouais, mais de toute façon, tu remarques à chaque fois qu'il commence une histoire, par exemple, il décrit le lieu géographique. Donc, il fait, par exemple, il te fait tout un layout sur Central Park à un moment donné. Central Park, où il fait bon courir. Après, il met la superficie de Central Park, le nombre de feuilles d'arbres.
Ouais, c'est
Enfin,
un
des
peu
trucs.
ça, ouais.
Enfin, tu vois, n'importe quoi. Et oui, c'est super verbeux. Et puis, alors, la traduction française, franchement, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment des trucs hallucinants. Donc voilà, donc c'est un petit peu difficile de rentrer dedans. Mais l'histoire est pas trop mal.
Bah après, si vous voulez, si vous en avez marre des X-Men classiques, enfin les X-Men pas classiques, mais les X-Men d'aujourd'hui qu'on a dans les pages du mensuel X-Men notamment, essayez ça peut-être si vous aimiez les anciens X-Men, peut-être que ça vous intéressera.
Si, voilà,
Le
quoi, si vous
souci,
voulez.
c'est que c'est totalement hors continuité. Ça, faut en être conscient et que ça n'aura jamais aucune répercussion sur ce qui se passe actuellement.
Ah, ça c'est clair, oui,
Ça peut
mais
être
de
un
toute façon.
plus. Mais c'est aussi pour moi un aspect négatif, parce que même s'il y a des bonnes idées, elles se resteront uniquement dans ce titre-là, quoi.
Bah, en fait, c'est vraiment, voilà, quoi, si vous voulez savoir ce qu'il aurait pu se passer à l'époque, si Claremont était resté, bah voilà, il y a des éléments de réponse, mais par contre, évidemment, à mon avis, pas mal de choses aussi qui ont été modifiées. Je suis pas certain que Nick Fury aurait contrôlé les X-Men à l'époque.
Pareil, ça me paraît un peu gros.
Ouais, enfin, je voilà quoi, il y a plein de trucs. Je pense que l'ajout du consortium, etc., c'est totalement pour X-Men Forever, et qu'à l'époque, il n'y aurait même pas eu ça non plus, quoi. De toute façon, il est évident que Claremont ne peut pas non plus faire ce qu'il aurait voulu faire, puisque, comme je te disais, ça a été refait par d'autres scénaristes entre-temps. Donc
Oui, exactement.
bon, je crois qu'on a fait le tour
Oui,
de.
on a fait le tour. En tout cas, bon, c'est une assez bonne surprise quand même.
Voilà.
Faut être honnête.
Franchement, on vous le conseille. Jetez-y un coup d'œil si vous êtes fan des X-Men, quoi, au moins.
Ouais, c'est sûr. Ça vaut le coup. Ok, on va changer un petit peu d'univers et on va passer maintenant à The Boys. 4 épisodes au sommaire de ce numéro. C'est le numéro 7, je crois d'ailleurs déjà.
6 ou 7, alors là je peux pas vérifier par contre.
Je me rappelle plus. Puis moi, comme je l'ai dit en VO, j'ai toujours du mal à me repérer avec les éditions françaises.
Moi j'aurais dit 6 comme ça.
Oui, peut-être. C'est peut-être toi qui as raison. Le scénario est de Garth Ennis, comme toujours. Les dessins sont de Darick Robertson, à l'exception du 26, le dernier du tome, qui est dessiné et ancré par John Higgins. Donc, déjà, c'est la première fois qu'on voit un autre dessinateur sur The Boys. Il a un style qui
Ah
se
non?
rapproche quand
Non,
même.
attends. C'est pas la première fois, rappelle-toi. Il y avait l'arc numéro 2.
Ah oui, c'est vrai, effectivement, c'est vrai, pardon. Donc voilà, bah, c'est la deuxième fois. Bon, il a quand même un style qui se rapproche de Darick Robertson. Il y a une différence, notamment au niveau de l'ancrage, j'ai trouvé. L'ancrage de Darick Robertson est beaucoup plus gros que le sien. Mais c'est pas très très choquant, honnêtement. On a...
Moi, ça m'a pas gêné du tout, là,
Ah
cette
non,
fois-ci.
non, on n'a pas trop l'impression de changer de dessinateur, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc c'est un nouvel arc qui, d'ailleurs,
A été coupé
précisons-le
en
tout de
deux.
suite, n'est pas complet, oui, parce que il reste encore 3 parties. Pour cet arc-là. J'ai oublié le. J'ai pas noté le nom de l'arc en anglais. C'est pas grave, ça n'a aucun intérêt. Cette fois-ci, Yugi va devoir infiltrer une équipe
Voilà. Et quelle équipe?
qui s'appelle les G-Wiz. Donc en français, son nom, les G-Wiz. Qui font partie de tout un groupe d'équipes G, qui sont d'ailleurs ni plus ni moins qu'une grosse parodie des X-Men.
Ouais, totalement une parodie des X-Men et vraiment une parodie très 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 très, très trash quoi, à la Garth Ennis.
Puisque le chef de cette équipe s'appelle John Godolkin, donc comme Xavier et les X-Men. Voilà, donc on a les G-Men, on a G-Wiz, on a G-West, il y en a tellement que voilà. C'est exactement comme les X-Men, quoi. Il y a beaucoup beaucoup d'équipes et ils s'y perdent, ils s'engueulent les uns les autres.
Ouais, et puis ils ont tous des particularités assez marrantes. Et puis surtout, à un moment, il y a Yugi et puis Butcher, je crois, qui étudie l'organigramme de leur groupe, et on voit effectivement tous les groupes, les sous-groupes, etc., etc.
Et d'ailleurs, on
Puis
voit
ça fait
même,
vraiment penser aux familles mutantes, quoi.
si tu regardes bien cet organigramme dans le coin gauche, tu vois le nom. Alors je suis pas sûr qu'on voit le nom de l'équipe, mais tu vois deux photos et tu vois clairement un punk et un autre gars un peu dans le même style, et tu vois clairement que c'est une équipe anglaise comme Excalibur en fait. Donc il y a plein de petits détails comme
Il y a
ça.
plein de petits, il y a plein de petits clins d'œil aussi, de toute façon, à l'univers des X-Men.
Oh oui, complètement. Avec
Puis
même
même les
certains
couvertures.
personnages. Oui,
Et on en a pas parlé encore, mais les couvertures, dont une couverture notamment,
la couverture
qui
numéro
rappelle
6,
totalement une
qui est
couverture des X-Men, c'était les anciens contre les nouveaux X-Men à l'époque de Claremont et Byrne, quoi.
L'épisode 100, justement. C'était
Voilà.
la couverture, c'est la réplique de la couverture numéro 100. C'est pour ça que j'ai pas fait de déjà vu dessus, puisque je savais qu'on en viendrait en parler. Donc, voilà. Mais donc, Yugi intègre cette équipe, donc a un costume. Et quel joli costume d'ailleurs.
Il se fout bien de lui parce que c'est vrai que voilà quoi, c'est un costume absolument épouvantable.
Alors, je sais pas s'ils ont traduit son nom de code en français. En anglais, en tout cas, c'est Bagpipe.
Alors
Ce
je sais
qui est
plus du tout
normalement
comment ils l'ont
cornemuse.
traduit.
Cornemuse, normalement.
Mais je l'ai pas sous les yeux là, c'est pour ça que je pourrais pas vérifier.
Donc, bon, c'est. Voilà, puisque comme il est écossais et qu'il arrive très très mal à imiter l'accent américain, ils ont préféré faire un. Carrément pousser le côté écossais au maximum et voilà, l'appeler carrément cornemuse, l'instrument des Écossais.
Si, je crois qu'il s'appelle Cornemuse, effectivement, en français. Ouais, si, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, effectivement, qu'ils ont traduit.
En fait, l'équipe là est pas mal séparée. On a donc Yugi qui est infiltré, on a Frenchie, le female, qui sont en écoute. Alors, j'ai pas les noms français, hein. Désolé, c'est que je les connais pas,
Oh
j'ai
bah,
toujours les
ils disent
cornéos.
toujours la crème, la fille.
D'accord.
Donc, autant que je me rappelle, la crème, c'est le
C'est
black.
Mother's Milk, ouais, le black.
Ouais, voilà. Donc la crème et la fille sont là.
Et donc on a Mother Milk qui enquête, puisque une fille d'une des équipes, c'est enfin justement de cette équipe des G-Men, s'est complètement suicidée en pleine rue, quoi, devant tout le monde. Et bien sûr, la vidéo de son suicide a été retransmise sur YouTube, donc ça fait un peu désordre.
Ouais.
Donc lui, pendant qu'il enquête, il y a Butcher qui continue à faire ses trucs par-ci par-là. Et d'ailleurs, la découverte qu'il fait à la fin, où il dit clairement qu'il a envie de carrément tuer celle qui lui donne ses missions, je me demande bien ce que c'est. On n'a pas la révélation là-dessus, et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui a pu le mettre en colère comme ça pour avoir carrément transpercé l'écran de son ordinateur à coups de poing.
Ouais, voilà. Je sais pas, il a découvert sans doute quelque chose qu'il fallait pas qu'il voie sur son équipe ou sur je sais pas, ou sur les ordres de mission qu'on lui a filés ou je
Bah,
sais pas.
honnêtement, c'est très très simple à savoir ce qu'il a découvert. C'est tout simplement ce que le résumé de Panini a balancé, je pense. Donc pour ceux qui n'auraient pas lu le résumé.
Ah bah attends, moi j'ai lu le résumé, ça m'a spoilé un petit peu qu'est-ce qu'il en était sur l'équipe des.
Chose qu'on n'apprend pas du tout dans cet épisode-là
Ah
d'ailleurs.
non mais moi non plus, non mais moi
Donc
non plus, moi
pour
mais
moi
c'est vrai
c'est ça
qu'il y a un
qui.
gros spoiler encore une fois dans le résumé
Pour moi c'est ça
derrière
qui l'a
la.
découvert. Je vois pas d'autre explication.
Mais je vois pas pourquoi il serait énervé à ce point-là pour ça.
Bah parce que c'est dégueulasse.
Oui.
Si vous n'avez pas lu le résumé, c'est pour ça qu'on évite d'en parler. Si vous ne l'avez pas lu, surtout n'allez pas le lire, parce que de toute façon, vous ne verrez même pas les événements dont on parle en résumé dans ce tome-là.
Voilà, ouais. Donc ne lisez pas le résumé encore une fois, c'est comme pour Walking Dead une fois, c'était valait pas mieux pas le lire, et ben là c'est pareil. Ouais. Mieux pas lire le résumé en back cover. Effectivement, bah il se passe pas mal de choses, il y a aussi la fille et le français qui je sais pas, enfin apparemment le français a l'air de savoir des choses sur la fille qu'on ne sait pas.
Elle est en train de péter les plombs apparemment et elle a envie de tuer tout le monde. C'est vrai qu'on voit qu'elle est perturbée, mais comme elle parle pas, c'est toujours difficile à se rendre compte.
Et puis on a aussi l'intrigue sentimentale de Yugi et de sa copine qui fait partie du groupe de super-héros donc les plus célèbres de la Terre qui continue quoi.
Tranquillement. D'ailleurs, il y a une petite scène comique où ils font des blagues téléphoniques. Enfin, vous verrez dans l'épisode si vous le lisez. Et j'ai trouvé ça très fort comme scène.
Ah oui, c'est vrai, oui, cette scène-là qui est très drôle effectivement. Où il y a il se demande si c'est un quiproquo ou si c'est bien eux, enfin bon voilà quoi.
Non, c'est ça, c'est sympa.
Ça joue sur les identités secrètes et c'est assez drôle. Mais enfin bon, l'essentiel de toute façon de l'arc, enfin pour le moment des quatre premières parties, c'est effectivement ce côté infiltration et cette découverte de l'équipe qui est une parodie des X-Men et avec des moments donc assez trash quoi.
Enfin, franchement, moi j'ai trouvé vraiment cet arc vraiment sympa et j'ai vraiment hâte de lire la fin. Dommage
Ouais,
qu'il
bon,
faille
voilà,
attendre
quoi.
quelques mois
Je sais
pour.
pas, je sais pas vraiment. Enfin, moi, je suis plus sceptique que toi sur le fait que est-ce que ce que découvre Butcher sur l'ordinateur, est-ce que c'est vraiment en lien avec l'équipe des X-Men, enfin la parodie des X-Men, ou est-ce que c'est autre chose? Moi, je pense. Enfin, moi, j'ai imaginé que c'était totalement autre chose, au fait.
Bah, on aura la réponse quand sortira le prochain tome. Alors, je sais pas quand c'est, d'ici 3-4
Oh,
mois,
je pense que ça
j'imagine.
va sortir bientôt puisqu'il les sort assez vite quand même.
On verra bien. Et on commence à nous parler aussi d'Herogasm. Il y a une petite référence faite à Herogasm, donc la mini-série dont je parlais l'autre fois dans le
Qui devrait être publié
podcast.
aussi en français, j'imagine,
Dans un numéro
dans un
spécial, j'imagine.
ouais.
C'était mini en 6. Donc voilà, on nous en parle très brièvement, donc pas de ni de spoil ni quoi que ce soit, mais on voit que c'est quelque chose qui va arriver. Voilà, donc encore une fois, bah
Bah oui, c'est toujours très bon, et puis
c'est toujours
bon,
très
on rentre pas dans
bon,
les détails parce que c'est toujours des trucs à découvrir, voilà quoi, sur le moment.
ouais. Oui,
C'est
c'est vrai
vraiment
que voilà. Mais ça encore, c'est une valeur sûre et vous pouvez l'acheter si vous aimez The Boys, vous serez pas déçu, quoi.
Le seul regret, c'est qu'on n'a qu'une partie.
Oui, et que si vous avez le résumé, vous êtes spoilé sur la fin de l'histoire à
Ouais.
l'avance. Bien, on retourne chez Marvel maintenant avec Wolverine Noir. La mini-série complète, donc en 4 épisodes, est écrite par Stuart Moore et dessinée et ancrée par C.P. Smith. Donc après le Spider-Man noir et le X-Men noir, voici une nouvelle incursion dans cet univers très récent, hein, donc avec
Enfin non,
Wolverine.
pas tant, puisque ça se passe quand même en 37.
Oui, enfin quand je dis très récent, je veux dire en
Oui, j'ai
termes de
compris, oui,
publication.
bon. Je fais exprès pour t'énerver.
Non, ça va, il m'en faut plus pour m'énerver quand même.
Ouais.
Quand même. Juste une erreur éditoriale sur JLA, ça suffit.
Voilà.
Franchement, bah, autant j'ai pas trop accroché X-Men, vous vous rappelez peut-être de ma review à l'époque, alors que toi, Ming, avait plutôt aimé X-Men, moi j'avais pas vraiment accroché. Et ben donc celui-ci, j'avais peur que ce soit un peu dans la même ambiance, et pas du tout. Celui-là est vraiment très très bon.
Ouais, c'est peut-être d'ailleurs le meilleur. Enfin, en tout cas, Wolverine se prête totalement à cette gamme et à cet univers. Et là, l'adaptation, en fait, enfin la transposition, on va dire plutôt, la transposition de son univers à l'univers noir, quoi, en fait, est vraiment super réussie.
Déjà, il y a une chose très 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 maligne de Stuart Moore, c'est de baser totalement son histoire sur Wolverine Origins de Paul Jenkins.
Ouais, on
Tout
retrouve
est
totalement
basé
les
là-dessus.
personnages.
Bah, on retrouve le personnage de Dog, on retrouve le personnage de Rose. Voilà, tout est tiré à partir de là. C'est-à-dire qu'il se sert de Wolverine Origins pour continuer son histoire, qui a varié par rapport à l'univers Marvel classique, c'est sûr. Mais voilà, enfin, et ça, j'ai trouvé ça super malin de sa part.
Ouais, on va dire ça prend racine là-dessus, quoi, effectivement.
C'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai vachement accroché, contrairement à X-Men, où c'était vraiment, vraiment différent, même peut-être beaucoup trop de ce qu'on pouvait connaître des X-Men. Là, justement, il y a ce côté-là qui nous rappelle le Wolverine qu'on connaît, et qui pourtant s'en éloigne totalement et part dans son propre univers, puisque c'était le but de Wolverine Noir, c'était pas de nous refaire une histoire de Wolverine classique. Quoique, honnêtement, ça aurait très bien pu être une mini-série Wolverine, sans forcément porter le titre Noir, et ça aurait pu le faire largement aussi.
Ouais. Bah alors, par contre, est-ce que quelqu'un qui n'a pas lu Wolverine Origins peut...
Ah oui, totalement. Moi, je pense que
D'ailleurs,
oui, en
c'était
fait.
Wolverine Origin, je crois, sans S, puisque...
Ah oui, pardon. T'as peut-être raison. Oui, c'était Origins, c'était pas Origins.
Ouais, c'était Origin, puisque là, c'était la mini de Paul Jenkins, et ensuite Origins, c'est la série l'ongoing avec Daniel Way au scénario.
D'où ma confusion, oui, d'ailleurs. Tu fais bien de me reprendre.
Et à ne pas confondre, puisqu'il y en a un qui est vraiment très très bon, et l'autre qui est, bon,
Très
assez
bon.
passable dans l'ensemble, quoi, en fait.
Donc ouais, bah on retrouve bah, tous les personnages importants en plus de l'univers Wolverine, puisque on retrouve Yuriko, on retrouve Mariko, on a Creed, voilà quoi. Enfin c'est moi pour moi ça c'est du très bon quoi. Je me suis
Moi, je me suis
vraiment.
toujours rendu compte, d'ailleurs, que j'ai toujours confondu Yuriko et Mariko.
Ben voilà, c'est pas la même. Mais là tu as dû t'en rendre compte.
Bah oui, du coup, oui. Donc, pour resituer, au fait, Logan et Logan, c'est une agence de
Oui.
détectives.
Et d'ailleurs, ça commence très noir, hein, puisque voilà, c'est vraiment noir, ça porte bien son nom, quoi.
Ah oui, là, on est vraiment dans les années 30. Les décors aussi, les décors sont super sombres.
Les dessins sont magnifiques, je trouve.
Ouais, bah oui, c'est vraiment le style parfait, quoi, vraiment adapté à cette gamme, au fait.
Puis en plus, on sent le mouvement dans les pages. Enfin voilà, c'est pas, il n'y a pas un côté statique. Non, franchement, les dessins collent bien en plus, qui rend la mini-série vraiment, vraiment super bien.
Ouais, il y a une atmosphère qui se dégage de ce récit qui est vraiment très prenante. Et on le lit d'ailleurs très très vite, quoi.
Bah moi je l'ai lu d'une traite et en très peu de temps, parce que malgré tout ça se lit quand même assez vite.
Bah, il n'y a que quatre parties,
puis les épisodes se lisent assez vite en eux-mêmes. Mais franchement, c'est pas cher, ça vaut que 10€. Voilà, si vous avez envie de lire une bonne histoire de Wolverine, et honnêtement, à part Oldman Logan, de façon très récente, j'ai pas le souvenir d'une très bonne histoire de Wolverine depuis longtemps. Allez-y, franchement, prenez-le.
Ouais.
Donc, excuse-moi, je t'ai coupé pendant que tu faisais le pitch, donc je vais te
laisser finir. Vraiment, pour resituer un petit peu l'histoire, donc Logan et Logan, c'est une agence
Wolverine.
De voilà l'agence où bosse Logan, quoi.
Jim Logan, justement.
Jim et Cabot, je sais pas comment on dit d'ailleurs.
Bah, en fait, en anglais, il s'appelle Dog, tout simplement.
Ah, d'accord.
Donc, Cabot, comme un chien, quoi.
Ouais, exactement. Bah, là, c'est Cabot, quoi, en fait. Et donc, ils reçoivent la visite un jour d'une jeune femme qui s'appelle Mariko, qui leur demande de la protéger, quoi.
Oui, parce qu'elle se sent traquée. A l'impression d'être traquée puisqu'elle est une riche héritière,
voilà,
japonaise.
Des hommes qui en veulent à son père et donc elle est inquiète et Cabot va donc avoir une piste qui va le mener à un certain Creed.
Et surtout, il va disparaître.
Et voilà, il va disparaître, laissant Logan, enfin Jim Logan, tout seul.
Et donc, au fur et à mesure qu'il part à sa recherche et il revit un peu les moments de son passé et on découvre peu à peu ce qui se passe, pourquoi il le protège et que tout n'est pas forcément ce que ça paraît être, comme souvent dans les histoires de détectives.
Voilà. On peut pas en révéler beaucoup plus, puisque sinon ce serait vraiment dommage de...
Bah oui, ce serait dommage, parce que c'est une très bonne histoire, et je pense qu'elle mérite d'être découverte, celle-ci. Vraiment.
Ouais. Et c'est vrai qu'on... Là où ils font très fort, c'est... On n'attend pas forcément les personnages dans le rôle qu'ils ont, au fait, dans cette histoire, quoi.
C'est sûr, complètement.
C'est on s'attend pas forcément à ce que tel personnage réagisse de telle façon. Faut vraiment se mettre dans l'esprit que tout peut arriver, quoi, dans cet univers là, puisque c'est un univers totalement différent de l'univers Marvel classique, et que il est fondé sur rien du tout, quoi. Tout est à faire, donc
Et puis Wolverine n'a pas de pouvoir auto-guérisseur. Il a pas des super pouvoirs, quoi.
Ouais, voilà.
Donc voilà, ça rend les choses aussi vraiment différentes de ce qu'on a l'habitude de lire.
Oui, là il est clairement mortel, quoi.
Donc voilà, franchement, un de mes coups de cœur du mois, parce que en plus, vraiment, je m'attendais pas à grand chose là, encore une fois, et super agréablement surpris.
Alors, juste pour préciser que apparemment, donc la gamme noire rencontre quand même un bon succès en France d'ailleurs. Je crois qu'aux
États-Unis aussi, hein, d'ailleurs.
Aux États-Unis aussi, bien sûr, oui, puisqu'il y a des suites, par exemple, Spider-Man Noir a eu un volume 2, enfin une
X-Men
nouvelle
aussi.
Série.
X-Men aussi a eu sa deuxième série.
Est-ce que Wolverine l'aura?
Je sais pas, mais je crois que vient de sortir aux États-Unis Weapon X noir. Donc,
D'accord.
Mais donc je crois que c'est un spin-off de X-Men et non pas de Wolverine.
Ah, d'accord, ok.
Donc à vérifier, quoi.
Je disais donc qu'il y aura Punisher noir, il me semble.
Oui. Iron Man
et
noir.
Iron
aussi.
Man, ouais. Iron Man qui a l'air sympa.
Il y a un Luke Cage noir aussi qui est déjà sorti.
Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Je disais, il y a un Luke Cage noir aussi qui est déjà sorti.
Ah oui, c'est vrai.
Donc on va continuer d'en avoir en France. Voilà, moi pour le moment c'est 1 sur 2 qui me plaise bien, donc il y a des chances que le prochain me plaise moins. Merde.
Ouais, non mais enfin voilà, c'est une gamme qui a rencontré vraiment son public, qui a du succès, c'est mérité parce que c'est franchement intéressant.
Mais malgré tout, l'avantage aussi c'est que ça sort à pas très cher en France, donc même si on est un petit peu déçu, on n'a pas engagé beaucoup d'argent et voilà. Donc vu la vitesse où ça part, vous pouvez très vite le refourguer si jamais ça vous plaît vraiment pas.
Oui, aussi.
Parce que ça part vraiment comme des petits pains.
Ouais.
Voilà, bien. On va maintenant rester dans l'univers un peu sombre et glauque avec Punisher. Dans ce numéro, les épisodes 66 à 70 de la série Punisher, qui a d'ailleurs changé de nom à cette occasion, qui s'appelle maintenant Punisher Frank Castle Max. Les épisodes sont scénarisés par Dwayne Swarzynski, les dessins et l'ancrage sont de Michel Lacombe. Alors, le pitch de l'histoire est très simple. Une personne s'empare du Punisher après qu'il est, comme d'habitude, battu froidement quelques pourritures, voilà. Et lui injecte un truc lui donnant 6 heures à vivre et il faut qu'il fasse la mission pour avoir l'antidote. En gros, c'est un mélange entre 24 heures pour la narration et Escape from New York, enfin New York 1997 en français, de John Carpenter, pour le thème.
Voilà, mais avec le Punisher comme personnage principal, ce qui change tout.
Ouais, voilà, ça change. C'est-à-dire que lui va pas vraiment se concentrer sur la mission, mais plutôt se concentrer pour éliminer le plus de salauds possible pendant les 6 heures qui lui restent à vivre, plutôt que faire
voilà,
son
en fait, Ouais, voilà, c'est ce qui est marrant, c'est que le mec s'en fout de mourir dans 6 heures. L'important, c'est que ses 6 dernières heures soient bien remplies, quoi. Voilà. Donc, il va se lancer dans la mission, dans une mission boucherie, quoi.
D'ailleurs, petit changement, ça se passe à Philadelphie cette fois-ci et pas à New York. Donc, il n'est pas en terre inconnue déjà. Il y a aussi ça qui joue dans la manière dont il réagit. Il utilise des fichiers qu'il a sur un petit peu tout le monde pour aller trouver ceux qui sont les plus pourris à Philadelphie et en profiter pour les éliminer.
Voilà, ouais.
Et il élimine la mauvaise personne. Du coup, ça attire beaucoup de regards sur lui et tout le monde se lance à sa poursuite. Donc, c'est un espèce de quiproquo géant.
Bah, en fait, il se passe vraiment plein de choses, quoi. Ça serait difficile de vraiment résumer toute l'action, mais en gros, on s'ennuie pas une seconde. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment agréable à lire celui-là.
Bah, moi, je suis déjà pas un grand fan du Punisher. C'est d'ailleurs
ouais,
souvent pour ça qu'on n'en parle pas forcément dans le podcast. Là, on a envie de le faire aussi parce que bah, ça changeait un petit peu d'habitude. C'est Dwayne Swarzynski. Là, le titre est un petit peu, on va dire, en rotation au niveau des scénaristes depuis que Garth Ennis est parti. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler. Et bah franchement, moi j'ai trouvé ça sympa, mais bon voilà quoi, sans plus quoi.
Moi au fait le Punisher c'est un petit peu mon petit guilty pleasure. Toi t'as Powers dont on parlera tout à l'heure. Moi c'est le Punisher quoi. Dès qu'il y a un album du Punisher, ça me fait toujours marrer. Et bon c'est vrai que ça vaut peut-être pas ce qu'a fait Garth Ennis. Surtout les premiers arcs de Garth Ennis c'était vraiment bon. Après bon ça tournait un peu en rond. Il y avait un petit peu moins d'inspiration. Mais là là franchement j'ai préféré que le précédent arc, celui de Greg Hurwitz je crois.
Oui c'est ça.
Déjà le thème est quand même plus drôle. Enfin plus drôle, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, je me suis quand même bien marré, quoi. Il y a quand même des moments super sympas et on se dit il est complètement barré puisque le type est en train de mourir et tout ce qu'il pense à faire c'est à décimer le plus de. En fait c'est comme un jeu vidéo, quoi. Ouais, il veut faire le plus de headshots possible. D'ailleurs il en fait pas mal, hein, niveau headshot, on est servi. Ah, sinon un truc important aussi à préciser, le cover artist. En fait, la couverture qu'on voit sur la version française, et je crois que c'est toutes les couvertures sont signées par le même, c'est pas du tout ce qu'on, enfin, ça ressemble pas du tout au dessin qu'on a à l'intérieur.
Non, c'est pas Michel Lacombe. Je sais voilà. Plus qui est cover artiste d'ailleurs.
Je sais plus, mais le cover artiste est très cartoony, très, ça fait un peu penser au mec de Power. Enfin non, je sais pas si je peux dire vraiment ça quoi. Mais enfin voilà quoi, le Punisher a l'air très cartoony sur la couverture. Mais à l'intérieur, les dessins de... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé les dessins de Lacombe.
Ah oui, ils sont... Franchement, c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment très
joli. Impressionnant. Sur certains visages, super réaliste. Non, enfin, franchement, j'ai vraiment été séduit aussi par ça. Alors que dans le précédent arc, celui de Hurwitz, c'était des dessins un petit peu plus... Je sais pas, ça joue un petit peu plus sur l'ombre et la lumière, je crois. C'était un peu...
Moi, je l'ai pas lu, cet arc-là, d'avant. Donc, je pourrais pas parler du dessin, puisque je l'ai même pas vu.
Donc voilà quoi, les dessins super sympas aussi et un scénario super divertissant. Donc un bon Punisher, on va dire, un bon cru.
Oui, enfin moi c'est vrai que bon, comme je disais, j'ai trouvé ça sympathique. C'est pas vraiment ma tasse de thé, mais voilà, ça m'a pas déplu de le lire, donc voilà, c'est un bon petit.
Donc voilà, enfin ceux qui ont aimé en tout cas le Punisher version Garth Ennis, il y a des chances vraiment qu'ils retrouvent un petit peu le fun de certains épisodes dans cet arc quoi en fait.
Le prochain arc sera signé d'ailleurs Victor Gisler. Ça a été, ouais. C'était annoncé. Donc,
Ce sera le dernier d'ailleurs. Ce sera le dernier de la série Punisher Max, puisqu'ensuite il y a une nouvelle série Max Punisher avec Jason Aaron au scénario et Steve Dillon au dessin.
Ouais, voilà. Ok, bah on va passer à la suite et c'est Irredeemable, nouvelle série chez Boom Comics, écrite par Mark Waid et dessinée et ancrée par Peter Krause. Qui n'a rien à voir avec l'acteur, hein, gars qu'on voyait dans Six Feet Under notamment.
Oui, oui.
Voilà. Ce sont les épisodes numéro 1 à 6. Alors, Irredeemable, c'est une sorte de variation en fait sur le thème des super-héros. On va dire, l'histoire de base, c'est et si Superman pétait les plombs et devenait le plus grand super-vilain de tous les temps.
Oui, enfin, de toute façon, et si Superman pétait les plombs. Enfin voilà quoi, qui pourrait l'arrêter, c'est surtout ça quoi. C'est la grande interrogation, comment l'arrêter ce type.
Bah, l'histoire est vraiment bien. Moi franchement j'ai vraiment adoré tout l'album. C'est vraiment hyper rafraîchissant je trouve. Alors il y a rien de nouveau, c'est des thèmes qui ont déjà été abordés, mais c'est vraiment bien fait quoi.
Ouais, c'est vraiment une excellente série. J'espère qu'elle va durer longtemps, mais alors est-ce que Mark Waid, qui est au scénario, donc va réussir en fait à l'installer dans la durée? Parce qu'au bout d'un moment, on se dit mais enfin voilà quoi, il va bien y avoir un moment où il va chuter, où il va se passer quelque chose.
Bah, quand on
Donc
voit la puissance en même temps, ça paraît délicat.
Ouais. Donc là, au fait, ce qu'on voit aussi, c'est la formation en fait d'une équipe pour l'arrêter, qui sont en fait ses anciens partenaires, quoi. C'est les autres super-héros présents sur Terre.
C'est la GLA. Parce que d'ailleurs, un truc marrant qui m'a frappé, c'est que, grosso modo, ce sont tous des variations de personnages DC Comics. Il n'y a pas. Enfin, moi j'ai vraiment vu que des personnages DC. J'ai pas eu l'impression du tout qu'il y avait des pastiches de personnages Marvel. Alors est-ce que c'est une critique envers DC? Est-ce qu'ils boudent Marvel?
Bah,
Je sais
en
pas trop
fait, moi,
comment
ça
le
m'a fait
prendre.
penser vraiment. Irredeemable m'a fait penser à deux choses. M'a fait penser totalement à Black Summer, où l'un des plus grands super-héros de la Terre pète les plombs, et où tous ses anciens camarades de jeu, donc tous les autres super-héros, forment une équipe pour essayer de l'arrêter. En fait, le scénario est strictement le même, sauf que Black Summer, c'est une mini, et là, Mark Waid nous fait une série bien plus importante. Et la différence aussi, c'est que là, on assiste à pas mal de scènes de flashback où, en fait, il nous introduit tous les personnages au fur et à mesure comme ça. On voit leur rencontre avec ce grand héros. Alors, je sais plus comment ils l'ont appelé en anglais.
Le plutonien.
Le plutôt, ouais, bah alors en français, c'est pareil, c'est le plutonien. Voilà, c'est ça. Et donc, on voit leur rencontre avec lui, c'est comme ça qu'on apprend à les connaître, tous ces super-héros qui gravitent autour de lui. Mais ça m'a aussi fait penser à Squadron Suprême par Straczynski. Au fait, c'était sorti sous le nom de Supreme Power. Donc, je pense que tu ne les as pas lus.
Non,
Mais
ça, j'ai pas lu cette série.
très très bonne série d'ailleurs au passage. Mais c'était vraiment le même scénario, sauf que dans Supreme Power, Superman, enfin le pseudo Superman, ne pète pas les plombs à ce point-là, mais on sent qu'il est sur la, enfin voilà quoi. Et là, Mark Waid a vraiment a franchi le pas, quoi. C'est-à-dire que son Superman, sa version de Superman, pète les plombs et il s'intéresse à ce que ça donnerait, quoi. Mais dans Supreme Power, c'est pareil. Il y a un espèce de super-héros qui ressemble à Batman, une super-héroïne qui ressemble à Wonder Woman. En fait, c'est exactement, on retrouve encore une fois cette équipe-là.
Ben
Donc
là,
ça m'avait.
le Batman n'avait pas fait long feu quand même, hein, celui-ci.
Ah oui, bien sûr,
L'équivalent
ouais.
du Batman, en tout cas, dans Irredeemable. Donc
Voilà, ouais.
oui, je dis Irredeemable depuis le début, mais c'est vrai que le nom français, c'est Irrécupérable.
Irrécupérable en français, bon, bah.
Bon, c'est une très bonne traduction, hein, ça correspond bien à ce que ça veut dire, donc pas de souci
Oui, puis
là-dessus.
ça correspond plus ou moins. Enfin, le titre ressemble énormément en fait, puis même le lettrage, donc ça, c'est vraiment pas gênant quoi. En fait, ils ont vraiment trouvé le mot qu'il fallait.
Justement, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on est plongé directement au cœur de l'action et qu'on apprend par des flashbacks, etc. Alors, c'est vrai que c'est une bonne méthode plutôt que nous amener tranquillement ce twist en fait où il pète les plombs et décide de tout détruire, un peu comme on avait eu dans Invincible par exemple, dont on parlera tout à l'heure. Mais en même temps, le petit souci, c'est que c'est hyper dur, en tout cas pour moi, de retenir les personnages, d'arriver à savoir qui est qui. Je sais que par exemple, je serais quasiment incapable de nommer les différents super-héros, enfin ceux qui s'opposent aux plutoniens, malgré qu'ils soient récapitulés à chaque début de numéro, en tout cas aux États-Unis, je suis incapable de donner le moindre nom, quoi.
Bah, moi, j'ai toujours un problème de mémoire avec les noms des personnages, donc c'est pas moi qui vais te les sortir, mais par contre, de tête, je les vois plus ou moins, quoi. T'as l'espèce de professeur avec tous ces robots là, t'as les deux frères à un moment donné, d'ailleurs qu'on voit dans une scène où au fait le plutonien trouve une base d'anciens super-vilains, parce qu'au fait on voit aussi des super-vilains, faut aussi le préciser que. Il a aussi créé tout un univers avec des super-vilains qui sont peut-être aussi des pastiches de super-vilains connus.
C'est pas la base du super-vilain, c'est la base de l'ancien Batman. Enfin, de l'équivalent du Batman.
Ouais, enfin voilà, mais ça, en fait, ça sert à présent d'ancienne base pour les. Enfin de base pour les super-vilains en fait.
Mais, enfin voilà, les personnages, j'arrive à les voir, enfin leur design, mais j'arrive pas à retenir leur nom, quoi. Pour moi, c'est peut-être un peu le souci. Et pourtant, c'est ma deuxième lecture, hein, de cette série, donc j'arrive toujours pas à retenir bien les noms.
Parce qu'ils sont, fait, voilà, aussi il faut dire que bon, ils sont peut-être pas super charismatiques comparé à lui, qui est vraiment le, c'est vraiment la vedette de l'histoire, quoi. En fait, on attend qu'une chose, c'est de savoir quelle sera sa prochaine action, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Et d'un côté, c'est énervant qu'ils n'arrivent pas à le à l'arrêter, puisque de toute façon, il est vraiment au-dessus de tout le monde. Mais d'un autre côté, c'est jubilatoire, quoi. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'il va encore faire pour les embêter
Jusqu'où il va aller, surtout.
Jusqu'où il va aller, oui, puisqu'à un moment, il détruit, bon, on va pas dire quoi, mais il fait vraiment des énormes dégâts, quoi, sur Terre. Bah,
depuis ce qu'il a commencé, ça se compte en millions de morts, quoi, voire peut-être même en dizaines de millions.
Voilà. Donc on se dit, bientôt, il restera plus rien. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous raconter comme série? mais enfin, bon, c'est vraiment très, très bon, très, très bon. C'est
un comique, ça. À la dernière page, par contre, il y a un bon petit cliffhanger et il me tarde de lire la suite.
Alors moi, justement, c'est le seul truc qui m'a un peu saoulé. C'est-à-dire que il est devenu super méchant. Enfin, il a vraiment basculé du côté obscur. Et là, d'un seul coup, on a l'impression qu'il suffit d'un rien pour que il redevienne tout doux. Je sais pas. J'ai trouvé ça un peu poussif.
Il est pas tout doux là. Enfin, il est surpris du fait que les gens savent, mais c'est tout.
Ouais.
À voir comment il va réagir, mais parce que c'est vrai que finalement, on sait toujours pas pourquoi il a pété les plombs.
On pense que c'est
une accumulation de choses, mais on n'a pas le déclic qui a fait qu'il a pété les plombs. Est-ce que c'est pas ça? Voilà. Ça reste à voir.
Donc non mais j'espère que d'ailleurs il y aura encore des mystères en suspens puisque c'est vraiment là-dessus que Mark Waid joue aussi, c'est sur le côté qu'est-ce qui a fait basculer, enfin il y a beaucoup de questions comme ça et vraiment une très très bonne série à découvrir au plus vite quoi.
Vraiment, ça c'est pareil, une des très grosses sorties du mois et si vous avez l'occasion de passer pas à côté parce que c'est vraiment vraiment sympa. On n'a pas parlé vraiment des dessins. Il y a un petit côté old school quand même dedans, mais je trouve que ça correspond vachement bien à la série.
Ouais. Enfin oui. Mais non, enfin, c'est entre les deux. Moi, j'irais pas forcément super old school non plus, mais c'est peut-être plus dans le design des persos, leurs costumes, etc. Mais le dessin en lui-même, ouais. Enfin, moi, j'ai trouvé sympa, mais voilà quoi. Je me suis pas arrêté dessus non plus, mais bon. Enfin voilà, c'est. D'ailleurs, je sais plus le dessinateur, comment s'appelle-t-il déjà ?
Peter Krause.
Voilà. Alors, je sais pas si on l'a déjà eu sur autre chose avant.
Oui, il avait fait d'autres trucs, d'autres séries, mais alors j'ai plus les noms en tête. Mais voilà, je sais plus. Mais je sais qu'il avait fait d'autres projets.
En tout cas, bon, là, c'est publié aux États-Unis chez Boom, hein, comme tu l'avais dit, je crois. Mais c'est vraiment, enfin voilà quoi. Dernièrement, ces derniers mois, c'est vraiment la série qui justement fait un petit peu le buzz et.
Elle existe toujours aux États-Unis, on est rendu au 13 ou 14, je ne sais plus. Et voilà, elle a même eu son spin-off, qui normalement devrait sortir en France, si j'ai bien compris ce que j'avais lu sur le site de Delcourt, d'ici la fin de l'année.
Ah d'accord, je savais pas qu'il y avait le spin-off, alors ce sera avec qui le spin-off ?
Le spin-off s'appelle Incorruptible, et c'est un petit peu, en fait, c'est l'inverse, si j'ai bien compris. C'est un truc que je n'ai pas encore lu pour le moment, donc je peux pas en parler plus que ça.
Mais est-ce qu'on retrouve l'un des personnages de Récupérable ou pas du tout ?
Non, mais c'est dans le même univers.
D'accord.
On verra peut-être passer des personnages d'un mag à l'autre.
Bah oui, peut-être qu'on aura des réponses à nos questions aussi dans celui-là, quoi.
Voilà, la série est déjà rendue au numéro 6 ou 7 de mémoire, donc voilà, il y a déjà au moins un bon album de fait, et la série n'est pas finie.
Hein. D'accord.
Voilà. Mais c'est vrai que ces dernières années, enfin depuis un an ou deux principalement, Boom a vraiment explosé entre cette série-là qui a explosé les records de vente pour eux, plus toute leur ligne Boom Kids, où ils ont récupéré donc les droits Disney, ça avait été annoncé il y a deux ans, et que maintenant ils publient beaucoup de choses Disney, la compagnie marche vraiment vraiment bien. Et c'est vraiment bien pour Mark Waid, parce que c'est vrai que c'est lui qui est éditeur en chef là-bas. Il le mérite, je trouve. Parce qu'il a quand même battu pas mal de boulot ces dernières années, et du bon boulot, du très grand. Donc que sa compagnie continue aussi bien, tant mieux.
Enfin voilà quoi, pour peu que vous aimiez les super-héros et les trucs un peu dark, puisque bon, c'est quand même assez sombre. Voilà quoi, vous allez adorer cette série et on vous la conseille vivement.
Ah oui, franchement, oui. Si vous avez l'occasion, allez-y, passez pas à côté, c'est.
Et puis surtout si vous avez aimé Supreme Power ou Black Summer par exemple.
J'irais même jusqu'à dire que ça m'a fait penser un petit peu à Astro City, le côté où on découvre tous les personnages, ils sont tous dans un monde qu'on connaît pas, et qu'on découvre petit à petit au fur et à mesure des épisodes, c'est un petit côté comme ça aussi. Ok, on va passer à la suite maintenant. La suite, c'est retour chez DC avec le Big Book Batman Gotham After Midnight. C'est une maxi-série en 12 parties, tout est publié dans ce Big Book. Le scénario est de Steve Nines, les dessins et l'ancrage sont de Kelly Jones. Donc moi tout de suite, je ne l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps avec, comme j'en parlais tout à l'heure, avec mon nouveau boulot et mes nouveaux horaires. Là, ça a été un peu chaud pour ce podcast aussi, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'enregistre en deux fois. Là, c'est vraiment, j'étais obligé de faire l'impasse parce que bah, j'ai pas pu trouver le temps de lire ces 12 épisodes. Mais toi, Benny, tu l'as lu, donc tu vas pouvoir nous en parler un petit peu.
Ouais, je l'ai lu. Alors bon, sorti donc, comme tu disais, d'un nouveau Big Book de Batman. Donc voilà, avec 12 épisodes, c'est une mini-série en 12. Gotham After Midnight. Et bon, alors le scénario, en fait, c'est très court. Un nouveau méchant fait son apparition, qui s'appelle Minuit.
Wouhou.
Voilà. Donc on sait rien de lui, si ce n'est qu'il est très moche apparemment. On s'en rend très vite compte. Et ben voilà quoi, il envoie pas mal d'anciens ennemis de Batman à sa poursuite. Donc on voit dès les premières pages, par exemple l'épouvantail, gueule d'argile, etc. Avec le, enfin sous le crayon de Kelly Jones, donc ça rend un Batman un peu old school puisque Kelly Jones a travaillé énormément sur Batman au début des années 90, hein, c'est bien ça?
Ouais, c'était ouais début, milieu des années 90, dans les épisodes à peu près vers le 510 jusqu'au 540, quelque
avec,
chose comme ça.
Avec Doug Munch au scénario?
Ouais.
Et
c'était d'ailleurs
voilà.
L'époque, excuse-moi de te couper, c'était l'époque où Semic avait commencé à publier Batman dans un mensuel spécial qui s'appelait Batman Saga, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais, il y en a eu 4 ou 5.
Voilà, il y avait des épisodes de Legends of the Dark Knight et des épisodes de la série régulière Batman, ce qui avait été publié dans Strange aussi, ensuite, quand ouais. Strange était devenu DC.
Exactement.
C'était du Kelly Jones et du Doug Munch, et scénario.
Et je m'en rappelle, et je les avais aussi, ceux-là. Bref, donc, pour revenir à l'histoire, Minuit, un nouveau super méchant, Batman qui se retrouve face à toute une galerie de ses pires ennemis. Donc voilà, donc il enquête durant ces 12 épisodes sur l'identité de ce nouveau méchant. Comment dire, c'est vraiment du classique quoi en fait. C'est un scénario très 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 basique.
Ça me fait vachement penser à l'arc Hush de Jeff Loeb, Silence en français.
Ouais, il y a de ça, il y a pas mal de ça, mais je dirais que Hush m'avait un peu plus intrigué à l'époque. Parce que bon, on y voyait Superman par exemple, on voyait pas mal de gens passer dans Hush. Là, c'est vraiment centré uniquement sur Gotham, sur l'univers de Batman. Alors bon, par contre, c'est vraiment l'univers super classique. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas lu Batman depuis 20 ans, vous pouvez lire ce Big Book et vraiment rentrer dedans en 5 minutes, puisque c'est vraiment, enfin, ça fait appel au B.A.B.A. quoi. On y croise le commissaire Gordon et puis Alfred. Enfin voilà quoi. Ça se réduit à ça quasiment les personnages connus. Puis bon, évidemment, toute cette galerie de super vilains, il y a aussi le Joker, bien sûr. Batman, au fait, Bruce Wayne aussi entame une nouvelle relation amoureuse. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est, il y a aussi ce côté, voilà, il y a toute une histoire sentimentale qu'il a avec une nouvelle compagne. Donc
encore une.
Bah encore une, ouais. En ce moment, c'est souvent le cas. Il y a quelques années, on aurait dit ah tiens, c'est pas mal de voir Bruce en couple. Bah là, ouais, encore une. Donc bon, alors est-ce que ça finira bien cette fois-ci? Bah à voir. Je dirais que la faiblesse du scénario, c'est d'être assez prévisible quand même. Hein. C'est, enfin voilà quoi. C'est du déjà vu, mais si on aime Batman par Kelly Jones, si on aime bah voilà quoi, ça fait penser un petit peu aussi à l'animé quoi. C'est un scénario assez c'est pas bon enfant parce que c'est au fait c'est assez sombre. Il est habitué quand même des trucs assez horrifiques, mais je veux dire c'est une bonne lecture pour Halloween. C'est pas non plus super flippant, je veux dire on peut lire ça même les enfants peuvent le lire quoi, je pense pas non plus les traumatiser. Enfin c'est du Batman voilà, c'est du vrai Batman gothique. Bon, enfin, ça reste sympa, mais c'est vraiment à conseiller, je dirais, pour les fans purs et durs de Batman, quoi.
D'accord, ouais, ok.
C'est pas l'arc exceptionnel qui va bouleverser les choses et dont on se souviendra dans 10 ans, quoi.
Ouais,
c'est un truc sympa, voilà, un truc sympa à lire. Pour une fois qu'on a un Big Book Batman, enfin, on en a eu d'autres, mais je veux dire, une histoire autant contenue, on va dire, un truc en 12 épisodes en one shot, bah. C'est sympa, mais bon,
Bah, le prix freinera peut-être vu que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, on va dire.
Moi, je dirais vraiment à conseiller aux fans du perso et les autres passeront leur chemin, quoi. Il est clair que si vous voulez vraiment suivre l'essentiel de l'univers DC, bah, vous pouvez faire vraiment l'impasse sur ce truc-là parce que c'est un truc totalement à part qui n'a aucune incidence et voilà.
Moi, je le lirai quand même parce que j'aime beaucoup Kelly Jones, donc rien que pour son Batman, voilà. Mais c'est vrai que c'était pas du tout une priorité du mois, il y avait beaucoup d'autres choses et il a fallu que je fasse un choix, donc.
Ah ouais, voilà, c'est surtout pour l'univers, enfin les dessins, pour ceux qui aiment Kelly Jones, bah là vraiment ils seront servis parce que ils passent par toute la galerie des fous psychopathes d'Arkham, etc. etc. Donc
Ce qu'il avait
bon,
déjà fait en plus à l'époque de Dogmunch, hein, c'était exactement la
voilà.
même chose.
Donc bon, on retrouve vraiment l'ambiance gothique qu'il avait insufflée à Batman. Il y a de très belles planches de Gotham comme ça par Kelly Jones. On s'ennuie pas, hein, c'est assez rythmé, mais voilà, c'est quand même du classique, du déjà vu, on va dire.
Ok, bon, on va passer au deuxième gros monstre du mois, c'est le Monster Darkrai numéro 2, avec 4 séries dedans, enfin 4 séries, on va dire 4 histoires différentes. La première, c'est les Deadpool volume 3, numéro 10 à 12, scénario de Daniel Way, dessin de Paco Medina, ancrage de Juan Velasco. Déjà, l'avantage, c'est que ça conclut un petit peu l'arc qui était commencé depuis on va dire, quasiment le début de la série, Deadpool. On veut toujours à Norman qui lui a piqué son information et pour laquelle du coup il n'a pas été payé par Nick Fury. Donc il estime que Norman lui doit de l'argent. Et cette fois-ci, Norman en a plein le dos, pour être poli. Et
Ouais.
donc il envoie à sa poursuite Hawkeye, enfin Bullseye.
Bullseye en Hawkeye, en fait,
Ouais.
puisque c'est le Bullseye version Darkrai, en fait. Bah voilà,
Voilà.
donc en fait, en gros, c'est ça, hein, t'as bien résumé, c'est Bullseye, enfin Hawkeye versus Deadpool pendant 3 épisodes. Donc c'est une grosse baston, une grosse course-poursuite, et c'est toujours aussi comique, aussi fun, aussi drôle.
Oh bah c'est même de l'absurde quoi. Enfin je veux dire, on a des flèches dans la tête, on a une scène de baston dans une boucherie, enfin dans un abattoir plutôt. Enfin c'est complètement taré quoi.
Oui, où Deadpool se fait carrément une armure en morceaux de barbaque.
Ça c'est énorme. C'est énorme ça.
Donc non, franchement, c'est toujours jubilatoire de lire ça parce que c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment, enfin voilà quoi. De toute façon, Deadpool c'est le mort-vivant, on va dire, sympathique de Marvel. Et c'est un petit peu Jason quoi. C'est le mec qui revient toujours, mais c'est Jason vraiment comique, qui va toujours de sa petite vanne. Et voilà, donc bah, toujours aussi sympa.
Faut être honnête, par contre, c'est super violent. Ces trois
Ouais, mais
épisodes-là sont quand même
c'est de la
vraiment violents.
violence à la The Mask aussi.
Oui, c'est de la violence drôle, mais c'est quand même c'est assez hard, quoi.
D'ailleurs, un jour, s'ils font un Deadpool versus The Mask, alors faudrait que ce soit un crossover entre
Marvel et
Marvel et DC, je crois, alors, pour
Dark
ça.
Horse, parce que je crois que c'est Dark Horse
Ah,
qui a
c'est Dark
récupéré
Horse.
les droits de The Mask, si je me trompe pas.
Ce
Donc,
serait assez énorme, là, quand même.
ouais, un crossover entre Marvel et Dark Horse, je sais pas s'il va y en avoir d'ici bientôt, parce que c'est quand même assez rare.
Mais voilà, donc bon, ce qu'on pourrait reprocher par contre, c'est comme tu disais tout à l'heure en antenne, le final un petit peu bâclé, si je puis dire sans jeu de mauvais jeu de mots. Voilà.
Bah c'est ouais c'est un final absurde quand même. Mais bon voilà au moins ça conclut cette histoire d'argent. On va pouvoir enfin passer à autre chose sur Deadpool. Donc ça aussi ce mérite là quoi. Et puis bon ça reste tellement drôle que voilà rien que pour le comique et les nombreuses blagues qu'il y a tout au long de ces trois épisodes ça vaut le coup d'être lu.
Ouais,
Mais
c'est voilà quoi, c'est du Looney Tunes mais version gore.
ouais. La suite, c'est Miss Marvel volume 2, numéro 38 à 41. Au scénario, on retrouve comme toujours Brian Reed sur la série. Au dessin, alors plusieurs dessinateurs s'alternent. On a d'abord Rebecca Ann Isaacs, son numéro 38, Sanate Kanada pour le numéro 39 et 40, et Sergio Arrigno pour le 41. Bon bah, c'est comme on le pensait la dernière fois, en fait, Miss Marvel a disparu. Et du
Oui.
coup, c'est Moonstone,
Carla
donc.
Sophon qui prend la place.
Voilà, la Miss Marvel des Dark Avengers qui prend sa place en tant que personnage principal du titre. Bon, premier épisode, c'est une histoire un petit peu autocontenue sur un psy qui est là pour voir si l'équipe tourne bien, etc. Payé par Norman Osborn, et il savait en fait que c'était un traître. Et voilà.
Ouais. Bon, enfin, malgré tout, c'est peut-être la mieux des quatre, en fait.
Ouais, bon, après, c'est une histoire bah, justement des espèces de fœtus de l'IM qui ont des pouvoirs et bon, elle essaye de les récupérer. Voilà.
Puis ça se termine en queue de poisson, puisque finalement la suite, je sais pas quand est-ce qu'on l'aura, mais ça fait plus, ça rentre plus dans le Dark Reign.
Ouais, enfin. Le problème, voilà, c'est que y a des guests un peu partout. On a Spidey qui passe. On a aussi Wolverine. On a bah, quasi, enfin, une bonne partie des New Avengers en fait. On a Luke Cage aussi. Et on a encore Deadpool.
Ouais, putain, c'est vrai.
Voilà,
Ça
donc
m'a moins choqué parce que comme on l'avait eu quelques pages auparavant, je me suis pas dit quoi encore lui, ça m'a semblé logique, mais effectivement, ouais.
il y a quelques dialogues sympathiques,
Bon, enfin, voilà
mais
quoi,
c'est
Brian
moyen
May
dans
dans les
l'ensemble.
menus plus
Franchement, c'est moyen.
inspirés.
C'est très moyen. Voilà. Je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de monde quand même, faut être
Bon, mais
honnête.
enfin voilà, comme je te disais, Brian Reed, par exemple, il avait fait une très bonne mini Captain Marvel il y a quelques temps, qui était sortie dans un Marvel Universe, qui était vraiment excellente. Mais là, sur Miss Marvel, je sais pas s'il
Le
est...
début de la série, bah parce que c'est lui qui écrit depuis le numéro 1 de ce volume 2, le début de
D'accord.
la série était vraiment pas mal, hein. Mais
D'accord,
là,
bah
ça...
parce que je les ai pas lus. Faut préciser que j'ai lu effectivement que des derniers épisodes.
Moi, j'ai lu jusqu'au 20 à peu près, et en régulier en tout cas. Puis ensuite, un petit peu ce qu'on a eu en français, mais par-ci, par-là, quoi.
Bon bah peut-être qu'aussi il ne s'en sort qu'avec la vraie Miss Marvel et qu'il n'est pas inspiré du tout par
Alors,
la
même déjà,
remplaçante.
l'arc précédent était assez moyen. Et je pense que là, il s'embourbe un peu. D'ailleurs, la série va arriver à son terme au numéro 50. Elle s'est arrêtée aux États-Unis, donc parce qu'elle vendait plus assez, quoi. Donc c'est bien la
Ouais,
preuve
mais
aussi
c'est
que...
aussi un petit peu le problème avec les gros events à répétition où les scénaristes sont obligés de se plier un petit peu à ce qui se passe autour. Et bon bah là par exemple peut-être qu'on lui a dit tiens tu vas nous mettre un petit coup de Deadpool, tiens tu vas nous faire apparaître Wolverine, tu vas nous faire apparaître Spider-Man, peut-être qu'on
Bah,
lui a
je
donné un
pense que
crâne d'écharpe.
c'est aussi parce que... Bon, attention, on va spoiler un petit peu, donc si vous avez pas encore lu ou si vous ne voulez pas savoir la fin, passez avec le minutage directement à la partie d'après de ce Monster. C'est en tout cas l'arc qui nous ramène Carol, quoi. Carol Danvers est de retour. Là, c'est pareil, on s'en doutait dès le début, quoi. Enfin, la série s'appelle Miss Marvel et je pense pas qu'avec Miss Marvel des Dark Avengers, la série aurait pu tenir.
Non,
Voilà.
bien sûr, bien sûr. Non,
En
mais
plus,
ça,
on
de
a
toute
déjà eu le
façon.
concept avec Dark Wolverine.
C'est pour ça, ne passez pas, puisque vous vous en doutiez de toute façon.
Donc bon, moi voilà, moi je suis pas trop séduit par ça. Voilà.
Ouais, c'était franchement moyen, c'est peut-être le plus moyen d'ailleurs de tout l'album.
Pas pour moi, mais après. Voilà. On passe au troisième, à la troisième histoire, c'est Zodiac, donc une série qui s'appelait Dark Reign Zodiac. En trois épisodes, les trois sont dans ce Big Book, enfin ce Monster, pardon. Au scénario, on retrouve Joe Casey, et au dessin et à l'ancrage Nathan Fox. Alors moi déjà, premier truc, les dessins m'ont vraiment arrêté. Je trouve ça totalement affreux. Je vais être honnête, hein.
Oui, bah ça m'a fait penser un petit peu à du Paul Pop. Alors j'ai plus cité Paul Pop, remarque si. Enfin, tu vois un petit peu le style.
Oui, le style de Paul Pop. Oh, moi non, ça m'a pas fait penser à ça. Franchement, moi ça m'a fait penser à vraiment de l'indé. Un mec qui faisait de l'indé
Bah,
dans
on
une
dirait
toute
du
petite
graffiti quoi,
boîte
du graffiti sur papier, par moment.
et qui a eu sa chance chez Marvel, quoi. Moi personnellement, donc, les dessins, j'ai vraiment pas aimé. À tel point qu'il y a des moments où on voit des personnages connus passer, et si on ne nous les annonce pas, ou si on se repère pas au costume, ce qui n'est pas forcément toujours possible vu que certains sont en civil, ils sont méconnaissables.
Bon, au début, moi, ça m'a pas gêné parce que c'était vraiment les super vilains qui enfin, avec ce trait-là, ça m'a pas gêné. Mais ensuite, c'est vrai. Par exemple, Johnny Storm, il a une tête de mec qui a pris une cuite 3 jours de suite et qui est complètement bourré. Donc, bon. Et puis, une fois qu'il est transformé, enfin, qu'il est en Human Torch, on dirait un espèce de gorille à poil orange. Donc,
C'est un Squatch, nous voilà.
quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Voilà, bon, pour l'histoire, en fait, c'est l'introduction d'un nouveau super vilain qui s'appelle Zodiac. Et aucun
Est-ce qu'il
rapport
est nouveau?
avec.
Moi, je pense. Je me demande s'il est nouveau.
Ben, je sais pas, on a vu son visage découvert, mais le problème c'est que les dessins sont tellement affreux que honnêtement, si c'est quelqu'un de connu, je l'ai pas reconnu.
Me demande si Nick Fury n'avait pas déjà affronté le Zodiac.
Mais il y avait un groupe de super vilains à l'époque qui s'appelait le Zodiac. Où il y
Ah,
avait
voilà, c'est pour ça
un
alors. Je
membre,
sais pas.
mais ils étaient passés dans Spider-Man où il y a très longtemps. Et justement, la série commence et du coup, comme il veut récupérer le nom, il a décidé de tuer tous les membres du Zodiac et il amène les 12 têtes justement aux personnes qu'il veut recruter, parce qu'il décide de monter une équipe. Alors dans cette équipe, on retrouve Deathripper, la fille de Nekra, Necra dont on parlera tout à l'heure.
Manslaughter
Marsdale, qu'on avait vu aussi dans Spider-Man, notamment.
Oui, enfin, soi-disant, parce que je me rappelle vraiment pas, mais bon.
Ou ça c'est pareil, c'est dans les épisodes 200 et quelques, il y a très longtemps. Peut-être même aussi, il est passé un petit peu à l'époque McFarlane, Larsen, je sais plus trop. Ça aurait mérité de vérifier, mais pas eu le temps. Clown, qui faisait partie de l'équipe du Ringmaster. Alors, je me rappelle plus le nom de l'équipe, c'était...
Stone Cold Steve Austin. Non, je ne sais pas. Parce que bon, les fans de catch comprendront.
Le clown.
oui, le cirque du crime, au fait.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Et Dave Cannon, le Whirlwind. Bon, voilà. Enfin, moi, honnêtement, cette histoire... Bon, le mec décide de devenir une force... sur laquelle il faut compter, qui il prône uniquement l'anarchie. Moi franchement j'ai vraiment pas accroché. Je me suis alors déjà super fait chier à la lecture. Ça a été une assez grosse torture de le lire parce que vraiment je me suis ennuyé déjà dès les premières pages.
Mm-hmm.
J'ai lu les trois et voilà, ça a pas décollé. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le personnage est vraiment taré et n'a aucune morale et recule.
Bah, il ressemble un peu à Deadpool quoi.
Ouais, le côté comique en moins.
Et moi au début, tu sais ce que je me suis dit ? Je me suis dit, ça y est, c'est encore Deadpool, tu sais, il se fait passer pour un mec du Zodiac. Et je pensais que ça allait être le twist final, qu'il allait enlever son masque et enfin tu sais que c'était une fausse tête ou un truc en latex, puisque bon, à un moment on voit que c'est un humain, mais moi je pensais que ça allait être Deadpool au final.
Non, bah il n'y a pas du tout le même sens de l'humour en plus, hein. Enfin c'est...
Non, enfin ouais. Bon, je pensais qu'ils allaient nous sortir un truc comme ça, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis dit, bon, non, en fait, ça doit pas du tout dans cette direction. Et au début, tu vois, ça m'a intrigué cette histoire, et puis dès la fin du premier chapitre, déjà, je me disais, ouais, bon, bof, est-ce que ça a bougé ? Et en fait, le problème, c'est que ça bouge pas tellement, même pas du tout.
Non, mais le personnage étant tellement fou, moi, j'accroche pas, quoi. D'ailleurs, c'est... Bah, pour moi, c'est pile poil ce qui va pas dans le Dark Reign aussi, c'est que vu que c'est le Dark Reign, alors bien sûr, il faut que ce soit sombre, d'où son nom Dark Reign, mais enfin, c'est pas une raison pour nous faire de la violence gratuite, du sexe et tout ça, quoi, parce que là, il y a quand même une scène...
Attention, parce que, en fait, là, c'est aussi un problème avec ce que je reproche au Big Book, à ce Big Book-là, et peut-être au Big Book, d'ailleurs, en général, c'est que quand ils mettent plusieurs séries, généralement, donc les Big Book en France, c'est les séries secondaires qu'on va mettre dans les parutions kiosques. Le problème avec ça, c'est que on se retrouve avec un fourre-tout, et là, ce Big Book, c'en est le parfait exemple, c'est-à-dire qu'on a quatre séries, et les quatre séries n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. On passe d'une série assez gore, mais bon enfant, comme Deadpool, à une série tout public, comme Miss Marvel, puisque Miss Marvel, c'est quand même relativement tout public, hein.
Ouais.
C'est du super-héros, quoi. Et ensuite, on voit même Wolverine faire la babysitter, donc c'est pour dire. Et ensuite, on repasse à un truc super adulte, super sombre, super gore. Puis terminera d'ailleurs tout à l'heure par un truc un peu plus léger, même s'il y a des super vilains. Mais voilà, donc c'est ça le problème, c'est que ça fait vraiment fourre-tout. Et du coup, ce livre, bah, à qui s'adresse-t-il, quoi, finalement ? C'est un peu... Enfin voilà, quoi, c'est un petit peu le problème aussi.
Moi, je le conseillerais, si vous êtes complétiste du Dark Reign.
Oui, voilà.
Si
voilà,
honnêtement, voilà, vous aimez pas Miss Marvel... C'est même pas la peine, enfin je veux dire, il y a Deadpool qui est vraiment très bien, et Leader Legion que moi j'ai bien aimé, dont on va parler d'ici quelques instants, mais voilà, franchement, Miss Marvel et Zodiac, c'est vraiment très faible. Zodiac étant pour moi le plus faible de tous, parce que j'ai vraiment pas accroché, quoi.
Moi, pour moi, c'est vraiment des titres qui auraient mérité surtout des sorties kiosques dans des hors-séries.
Bah, un kiosque hors-série avec Leader Legion et Zodiac, je pense que ça aurait peut-être été mieux, mais bon.
Ouais, voilà, par exemple, et puis un autre avec du Deadpool et du Miss Marvel, parce que le problème, c'est que là, en plus, faut vraiment avoir envie pour
29,
avoir Deadpool de payer 27 euros.
Ah, c'est 27, voilà. C'est le Big Book qui a 29, pardon.
Ouais. C'est, mais faut vraiment avoir envie quand même, quoi. Parce que,
Non, je sais pas. Moi, j'ai pas accroché, alors bon.
Vous êtes super complétiste, mais par exemple, voilà, quoi. Un gosse, il peut pas s'acheter ce Big Book parce
non,
que.
Non, faut pas. Surtout pas.
Bah non, mais voilà, mais c'est ça le problème, c'est que aussi...
Mais de toute façon, rien qu'avec Deadpool, je le conseillerais pas à un gosse, quoi.
Ouah, quand t'étais petit, on lisait quand même des trucs. Moi, je me rappelle que je lisais des trucs assez trash comme ça. Deadpool, c'est drôle, enfin voilà,
ouais,
quoi,
bon.
C'est du Evil Dead.
Ouais.
C'est du gore, mais du gore comique, quoi.
Enfin voilà, bon, bah, le Zodiac, reverra-t-on ce personnage dans l'univers Marvel ?
Je ne crois pas.
Ah, je sais pas. La porte est ouverte, en tout cas. Donc on verra bien. On passe à la dernière, Little Legion, Donc, pareil, mini-série en trois, les trois parties sont publiées. Au scénario, on retrouve Franck Thierry et au dessin, Matteo Santoluco. Alors ça, c'est pareil, je m'attendais à rien. Je savais pas du tout quoi m'attendre de ça. J'avais même plutôt un a priori négatif, en fait. Et ça a été une assez bonne surprise. Là, c'est un petit peu comme Eddie Mabel. On commence en plein milieu et on comprend l'histoire à coup de flashback. L'histoire, c'est que comment il s'appelle? Ça y est, j'ai
Le
oublié son nom.
moissonneur.
Ouais, voilà, le Grim Reaper, qui est donc le frère de Wonder Man, qu'on a pu voir pas mal de fois dans Avengers West Coast, notamment, décide de monter un groupe pour s'opposer à Norman Osborn parce qu'il n'est pas d'accord avec la façon de faire de Norman Osborn. Dans ce groupe, il y a donc Grim Reaper, enfin donc comme tu as dit le moissonneur, Tiger Shark, Nekra, donc du coup la mère de Death Reaper.
Voilà.
Gargoyle, enfin Grey Gargoyle, pardon,
Ouais.
Mr. Hyde, Absorbing Man et Wonder Man, qui étaient
Ouais, donc
recrutés.
c'est pas des manchots, quoi. C'est vraiment quand même un groupe.
Oui, c'est des gens connus, quoi.
Ouais.
Le truc, c'est qu'il y a eu un trade dans l'équipe, et ils ont tous été envoyés en tôle par Norman. Donc voilà, et il y a un avocat qui arrive et qui est censé essayer de démêler le vrai du faux et comprendre qui est le traître, parce qu'ils clament qu'ils ont été piégés par Norman, tout ça, donc essayer de démêler tout ça. Et on apprend petit à petit ce qui s'est passé. Et moi, franchement, je sais pas, une bonne ambiance, une espèce d'enquête. Je sais pas, j'ai
Bah, une
trouvé
bonne
ça sympa.
surprise surtout,
Ouais,
puisque
voilà.
comme toi, hein, je m'attendais vraiment pas à grand-chose. Et non, j'étais vraiment agréablement surpris. Et puis ça contrastait vraiment avec Zodiac où il se passait rien. Là, vraiment, on s'ennuie pas surtout.
Ma petite déception reste cependant la fin,
Ouais, bah, on va
qui à
pas la dire
mon...
non plus,
Non,
mais...
on va pas la dire, qui à mon goût est peut-être un peu facile. Mais bon.
Ouais et non, enfin bon, voilà, on laissera les lecteurs
Voilà.
juger, mais...
Mais c'est une ambiance, franchement, c'est une ambiance dark, crasse et compagnie, et enfin vraiment, on sent l'ambiance de la prison, un petit côté Oz, en fait,
Ouais, et
dans
puis non, mais
ces
moi ce que j'ai
mini-séries.
aussi aimé, c'est la formation de ce groupe-là, de super vilains. Alors je sais pas si on va les revoir, la Lethal Legion, mais je trouve super sympa au fait.
Noël, il y a des bonnes personnalités dedans.
Et
Bon,
puis
difficile de travailler ensemble, mais il y a des bonnes personnalités dedans.
c'est vrai que j'étais étonné jusque-là qu'on n'ait pas vu énormément de super vilains qui se rebellent contre Norman Osborn, sachant que Norman Osborn c'était quand même le plus pourri de tous. Et ils doivent l'avoir mauvaise, quoi. Il y en a beaucoup qui doivent l'avoir mauvaise, puisque... Maintenant, ils dirigent tout et ils ne doivent pas trouver ça normal. Donc
Et que certains n'ont
là.
pas leur place, justement, alors que c'est plutôt l'avènement des super-vilains et que finalement certains soient laissés de côté, quoi.
Voilà. Donc là, en plus, c'est pas des moindres. Et vraiment une bonne équipe. Non, une lecture sympa. Franchement, ça terminait bien au moins ce Big Book.
Non, non, franchement, ouais, très très bien, quoi. C'est vraiment, tout au long de l'histoire, c'est un petit peu du Agatha Christie, quoi. On se demande qui a fait le coup, on essaye de recouper les indices et on
Oui, et
cherche
puis
en même
aussi
temps que l'avocat
ça,
cherche, quoi.
voilà, ça nous remontre Wonder Man, que j'avais pas vu depuis les premiers épisodes de Mighty Avengers par Bendis, donc il y a quelques mois.
Mais qui était
Et je me
passé
demande.
aussi dans Miss Marvel au tout début.
D'accord, c'est pour ça en fait que j'avais pas vu la transition en fait. Je l'avais pas vu partir en prison.
Ben,
Donc
là, on l'a vu, enfin, on l'a vu en prison. Il nous explique comment il est arrivé en prison, quoi, pendant la mini-série. Et c'est vrai, il passe aussi à la télé, un peu comme Hawkeye à baver sur Norman Osborn. Et on le voit passer d'ailleurs dans le Jay Leno Show et le David Letterman Late Show. C'est assez marrant, ça d'ailleurs. Un petit truc qui m'a fait rire.
Donc voilà, bah écoute, en tout cas, pas mal.
Ben,
Les deux lectures,
deux
Deadpool,
séries sur quatre,
voilà.
voilà. Mais malheureusement, 6 épisodes sur 13, qui sont à mon goût, bien. Après, bon, chacun fait comme il le sent. Pour moi, c'est pas incontournable au vu de la totalité du Monster et vu le prix. Je pense que voilà, vous pouvez vous en passer. Ça vous n'apprendrait rien de plus sur le Dark Reign, en tout cas avec ça.
Sauf pour les gros gros fans de Deadpool qui peuvent pas passer à côté de...
Voilà. Et puis bah pour les complétistes, bien sûr. Voilà, à vos risques et périls. Bien, on va passer maintenant à du Image et on va attaquer Powers. C'est le tome 7 de Powers et c'est aussi la fin du volume 1 en anglais. Ce sont les épisodes 31 à 37 de la série, toujours au scénario Brian Bendis et au dessin Michael Avenoming. Alors cet arc, qui est assez long quand même, puisqu'il fait 7 parties, c'est ni plus ni moins que l'origine de Christian Walker, qu'on suit donc l'inspecteur qu'on suit depuis le début de la série. Bah, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Enfin, je m'attendais pas du tout. avant de le lire, de commencer à lire l'arc, je m'y attendais pas en tout cas. On
Oui, bah
commence. Enfin,
déjà,
moi, j'ai
ça.
déjà eu des soupçons à partir du deuxième épisode en fait,
D'accord.
puisque avec le dessin, on arrive à reconnaître un petit peu Walker et à partir de l'épisode 3, on est sûr et certain que c'est lui. Mais on se demande comment et pourquoi, puisqu'on sait qu'il a plus de pouvoir, etc. Et on suit en fait, on remonte le temps petit à petit. Alors, il y a ce premier épisode qui est vraiment très très étrange, très Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, quoi.
Très Guerre du Feu, hein, aussi.
Ouais. Avec un épisode complet où il n'y a pas de parole à part des oum, comme ça,
Voilà.
où on voit des singes bah, baiser, hein, parce que là, franchement, c'est le mot,
Oui,
et
mais
puis se
enfin voilà,
bastonner.
on commence sur une très belle scène. Et non, enfin moi, contrairement à toi, justement, alors c'est paradoxal parce que je lis moins Powers que toi, j'ai lu un arc, je crois, avant celui-là. Quatrième ou le cinquième, je sais plus exactement. Et dès le début, tu vois, je me suis dit, bon, avec ça, en fait, ça venait des cheveux, sans doute, du personnage. Mais en fait, ça doit être peut-être pas dès le premier arc, en fait, peut-être pas dès le premier épisode, je veux dire. Mais dès le suivant, je me suis dit, bon, bah, c'est lui, quoi. Au début, je me suis dit, on nous explique les origines de quelqu'un. Et dès le deuxième, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est les origines du héros, du personnage principal.
Moi, enfin, j'avais des doutes à partir du 2, comme je disais, mais bon, le troisième avec le dessin, c'était reconnaissable tout de suite, quoi. Bon, après, moi, franchement, je m'attendais pas à ça. Je vais éviter de dévoiler trop l'histoire parce que.
Non mais en gros, on peut juste dire que les premières parties, c'est comment dire, c'est les origines du personnage à travers le temps.
Voilà, c'est-à-dire qu'on le voit à l'ère préhistorique, on le voit après pendant des batailles barbares. Je sais pas trop si le. Si le temps est situé, je crois que c'est dans les années 1000 et quelques. Ensuite, on le voit en 1600. Et puis après, on remonte le temps, on s'approche. On le voit dans les années 20 où il rencontre Albert Einstein. Il y a pas mal de choses comme ça. Et on en apprend plus sur le personnage. Je vais pas détailler pourquoi, histoire de vous laisser la surprise si vous lisez Powers et que vous l'avez pas encore lu. Mais pour moi, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on fasse un break dans l'histoire, notamment après la révélation du dernier épisode où tous les super-héros sont bannis. Mais voilà, je suis voilà, j'étais vraiment intrigué et je me demandais comment il allait faire pour nous rapprocher le Walker qu'on connaît actuellement avec ce qu'on voit tout au long de l'arc. Et donc la suite des aventures de Walker et de Dina, puisque c'est vrai qu'elle n'apparaît que dans le dernier
À
épisode,
la fin,
Dina.
quoi.
Ouais.
Voilà.
Bah ce sera dans le volume 2 qui est paru chez Marvel sous le label Icons, donc le label Creator Owned. Et donc Panini, lui, va continuer sa publication en tomes normaux. C'est-à-dire qu'on aura le volume 8 ensuite, avec Powers, volume 2, numéro 1, à je sais pas trop combien d'épisodes fait l'arc. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé. Je sais pas si toi, ça t'a plu.
Donc déjà, Powers, à la base, c'est pas ma tasse de thé, puisque tu sais, j'avais lu un arc et j'avais pas spécialement apprécié. Alors là, au fait, il y a deux choses. Il y a l'histoire en elle-même que j'ai vraiment trouvée intéressante et que j'ai bien aimée. Le problème, ça reste que Powers, c'est écrit par Bendis, et que Bendis, sur Powers, il est vraiment. Enfin, il retombe toujours dans ses vieux travers. Alors, je m'explique. Au fait, sur l'arc que j'avais lu, l'autre arc que j'avais lu, j'avais l'impression qu'il avait envie de faire un petit billet d'humeur sur le traitement de l'information par les médias. Et donc, voilà, il y avait plein de dialogues où il faisait dire à ses personnages tout ce qu'il pensait des journalistes, etc., etc., etc. Et là, là, il s'est dit, tiens, je vais faire un petit peu de philo. Alors il nous sort Albert Einstein et puis il se lance dans des grandes pensées philosophiques sur l'histoire, sur les gens, sur enfin voilà quoi, c'est de la métaphysique à la Bendis sur 30 000 pages. Et enfin moi franchement j'appréciais bien l'histoire jusqu'à enfin non, l'histoire dans sa globalité, j'ai bien aimé. Le scénario est vraiment intéressant. Par contre, c'est le traitement en fait, l'écriture de l'écriture de Bendis qui est parfois un peu chiante. À un moment, voilà
C'est
quoi.
franco, moi, ça, c'est direct.
À un moment, ça m'a saoulé au fait à partir de l'apparition du vieux sage. Donc toi, tu dois voir de qui
Oui.
je parle. Donc voilà, le vieux sage, je me suis dit voilà, ça y est, un pur dialogue à la Bendis. Il nous en fait des tartines. Ensuite, avec Albert Einstein, on rebelote. Et alors au fait, tu vois maintenant, au fait là c'est hyper pratique pour voir vraiment comment travaille Bendis Powers. C'est-à-dire que t'as les découpages des dialogues, donc ça t'as une page où c'est à l'horizontale, une page où les cases se retrouvent à la verticale, ensuite t'as une page, une pleine page où tu vois le héros en action et il se lance dans un gros monologue en plusieurs blocs. Et enfin voilà quoi, ça te permet vraiment de voir sa manière de faire, d'écrire, etc. Donc en même temps c'est assez intéressant. Parce que bon, Bendis, il a quand même un style, faut le reconnaître. Bon, mais voilà quoi. Moi, c'est autant j'ai adoré l'histoire, qui est vraiment intéressante, qui est vraiment bien. Autant ça aurait été écrit par quelqu'un d'autre, j'aurais même encore plus aimé. Donc c'est évidemment pas possible ce que je dis, puisque c'est forcément Bendis qui va écrire Powers. Mais voilà donc.
Bah, t'aurais préféré une autre exécution en fait.
Hein?
T'aurais préféré une autre exécution de l'histoire.
Une autre exécution, voilà. Non mais c'est pas dans ses idées, c'est pas dans le scénario que j'ai pas aimé. C'est dans sa manière d'écrire, vraiment. Ouais. Voilà, l'exécution effectivement de l'histoire, c'est toujours un petit peu pareil, quoi. C'est toujours, c'est du Bendis, quoi. Voilà. Donc au bout d'un moment, quand on fait une overdose.
Mais en fait, ça se situe surtout avant ce qu'il fait chez Marvel actuellement, puisque ça date de 2004, si mes souvenirs sont bons. Donc c'était, je crois, quasiment au tout début du moment où il a explosé chez Marvel.
D'accord. Mais au-delà de ça,
j'entends exploser avec l'arrivée des New Avengers et voilà de tout ça quoi, parce qu'il écrivait déjà Ultimate Spider-Man pardon depuis le début.
Mais au-delà de ça, c'est très bon. Hein. Franchement, c'est vraiment une bonne histoire. C'est un bon arc.
De toute façon, c'est un incontournable si on est un fan de Powers, puisque ce sont les origines du personnage principal. Qui sont une des questions que l'on se pose depuis le début de la série.
Donc voilà, donc c'est vraiment une bonne lecture. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, non, enfin voilà quoi, Bendis a ce côté-là aussi dans les dialogues où c'est c'est toi le super-héros, oui c'est moi, celui avec les yeux verts, oui celui avec les yeux verts, c'est trop cool, ouais c'est cool, t'as vu. Enfin bon voilà quoi, tu vois, c'est les dialogues à la Bendis, c'est-à-dire répéter 36 fois la même chose d'une manière différente. Enfin voilà, c'est ça qui, en partie, puis bon.
Mais malgré tout, c'est très proche du langage oral classique. Hein.
C'est ce que les pro Bendis disent. C'est-à-dire que c'est un excellent dialoguiste. Ce que je vais pas nier, c'est juste que.
C'est pas ton style, quoi. C'est pas ton.
Voilà, quoi. C'est vraiment pas ma came, ou en tout cas, j'en ai tellement bouffé à un certain moment que, au bout d'un moment, j'en ai marre. Quand on a suivi effectivement durant plus de 100 numéros. Ultimate Spider-Man par Bendis et qu'on a lu en plus tout ce qu'il fait sur Avengers, Daredevil, etc., etc. Voilà quoi, c'est vrai que bon, Powers, on retrouve vraiment les tics au fait d'écriture de Bendis. Et voilà quoi, comme moi, on est vite lassé par ce style d'écriture, c'est sûr qu'on accroche peut-être plus difficilement. Mais voilà, bon, l'histoire est vraiment très bonne et c'est sûr que c'est un incontournable.
Il y a aussi un avantage de ce numéro, c'est que même si on n'a jamais lu la série régulière, je pense qu'on peut le lire sans être trop perdu par de nombreuses références.
Ah oui, enfin voilà, c'est aussi
à part
un
peut-être
bon...
la référence à Retro Girl sur le dernier épisode, et encore, je pense que bon, voilà, on arrive à comprendre et l'histoire est franchement lisible pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu un Powers. Donc ça, c'est plutôt cool aussi.
Ouais. J'allais te dire, c'est un bon jumping point pour ceux qui voudraient commencer aussi cette série. Bon, alors par contre, les origines du héros sont spoilées, du coup.
Ouais, mais bon, comme on sait qu'il y a une suite après, que c'est pas terminé, ça s'arrête pas là.
C'est peut-être pas forcément l'élément principal non plus de Powers, les origines.
Non, c'était un des mystères de Powers.
Voilà. Donc, si vraiment vous n'avez pas essayé cette série et que Bendis ne vous fait pas peur, alors allez-y, quoi. C'est vraiment bon.
À savoir quand même que c'est assez atypique par rapport au reste de la série, puisque là on suit vraiment que le personnage de Walker tout au long de l'arc. Bien, on va passer à notre dernière review pour ce podcast-ci. C'est la review du retour d'un héros oublié, puisque il n'y avait plus assez de ventes, donc ils avaient décidé d'arrêter chez Delcourt. C'est Invincible, tome numéro 4. Épisode 18 à 24 de la série régulière. Scénario Robert Kirkman, dessin Ryan Otley. Donc déjà, ça fait plaisir de revoir Invincible en France, puisque ça faisait un moment que ça s'était arrêté, comme je disais, à cause de mes ventes. Bon, alors moi, les épisodes, je les ai rapidement relus, puisque j'ai lu la série déjà depuis très longtemps, donc j'en ai qu'un souvenir de ce que j'ai relu vite fait, comme ça. Bon, c'est du Invincible, c'est super bon, quoi. C'est toujours du Kirkman qui fait du grand. Là, cette fois-ci, pas avec les zombies, mais avec le thème du super-héros et du thème surtout du jeune super-héros. Un petit peu ce qu'on a pu voir, pour moi, c'est pendant en fait de Ultimate Spider-Man, quoi.
Oui, en fait,
Dans
voilà,
son
c'est.
univers à lui.
Alors donc moi j'avais pas lu en fait les premiers tomes d'Invincible, donc j'ai vraiment découvert Invincible avec l'épisode 0 dans les chroniques de Spawn. Bon alors déjà première chose, c'est vrai que ils nous ont publié l'épisode 0 dans les chroniques de Spawn, et l'épisode 0 en fait se situe là au milieu de l'histoire, quoi, au milieu de ce volume 4.
Ce qui est censé se lire après le 21, je crois.
Voilà, et du coup le gros événement de ce volume 4 s'en retrouve spoilé par cet épisode 0. Voilà, bon, je vais pas en dire plus pour ceux qui ne l'auraient pas lu et pour ceux qui voudraient pas être spoilés sur le gros truc. Mais alors d'un côté l'épisode 0 résumait les trois précédents tomes, donc ça permet aux lecteurs comme moi qui n'avaient pas lu Invincible d'avoir un résumé concret de tout ce qui s'est passé auparavant
Ben
et de
voilà, ouais,
tout
c'est
leur
ça,
traitement.
y a du bon et du moins bon dans le fait de l'avoir publié, quoi.
Voilà, ouais.
Le bon point, c'est que ça
Autant
permet de donner de la visibilité à une série qui était en perte de vitesse.
Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, bon, c'est un moment clé dans Invincible qui passe un peu à la trappe, quoi. C'est-à-dire quand on commence à lire ce volume 4, bah, on sait déjà le gros truc qui va se passer, et on sait déjà que ça va se passer et comment ça va se passer, quoi. Mais au-delà de ça, donc moi qui n'avais jamais lu Invincible, franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est vrai que c'est un petit peu ce qu'aurait pu être Ultimate Spider-Man si ça avait été écrit par Kirkman. Par contre, c'est vraiment très très drôle, voire même parodique par moments de ce qu'est donc de ce que sont donc les super-héros, quoi. Et ouais, il y a vraiment des épisodes super marrants et super décalés. Par exemple, il y a un moment où il va sur Mars, où
Oui.
ils affrontent des espèces d'extraterrestres.
Qui ressemblent à des mini Starro de chez DC, puisque c'est des espèces d'étoiles
Oui,
volantes.
voilà. Il y a plein de clins d'œil, il y a plein de divers super-héros, personnages, etc. À un moment donné aussi, il affronte toute une galerie de super-vilains plus improbables les uns que les autres. Alors il y a le super-vilain, enfin principal, qui fait l'énumération de ses gardes, quoi. Et c'est, enfin, il a des pitchs pas possibles sur eux, etc. C'est vraiment super marrant. Et non, il y a même des petits twists sympas tout au long des épisodes. Il se passe vraiment énormément de choses, au fait.
Tellement que c'est très difficile à résumer, en fait.
Ouais, il y a plein d'intrigues qui se nouent.
Certaines qui auront des répercussions encore dans d'ici longtemps.
Voilà. Donc, franchement, c'est très 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 bon, très très plaisant à lire. Alors, comme d'habitude chez Kirkman, il y a quand même des pavés de dialogue.
Oui. Mais c'est surtout dans les scènes moins. Pas de bataille, en fait. Il y a des passages beaucoup plus calmes où ça discute énormément.
Ça discute énormément, mais d'un autre côté, c'est pas du Claremont, c'est vraiment agréable à lire en
Oui,
fait.
bien sûr. Oui.
C'est vraiment, ça coule tout seul, donc c'est
Très dynamique dans la façon d'écrire.
voilà, ouais, c'est très dynamique. Alors, c'est pas non plus du Bendis, c'est pas des dialogues où il se parle du tac au tac. Là, c'est plutôt justement un long monologue suivi d'un autre long monologue. Mais malgré tout, ça se lit bien, ça passe bien. Et voilà, donc franchement, très très bonne surprise. En fait, ma crainte, c'était que ce soit un petit peu du déjà vu, parce qu'on m'avait dit, oui, Invincible, c'est sympa, mais bon, c'est quand même, il y a beaucoup de redites, enfin, c'est trop cliché, etc. On retrouve pas mal de choses. Et vraiment là, j'étais surpris, quoi. J'étais surpris puisque il y a plein de twists auxquels je m'attendais pas du tout, quoi, au fil de l'histoire. Alors que je pensais qu'au contraire, j'allais vraiment deviner ce qui allait se passer au fur et à mesure. Et ben là, pas du tout. Donc vraiment très très bon Invincible, tellement bon d'ailleurs que je vais essayer de récupérer les trois premiers volumes.
Un convaincu de plus.
Voilà. Non non, vraiment très très bon. Alors par contre, il y en a qui le conseillent parfois en disant si vous avez aimé Walking Dead, vous aimerez Invincible. Alors là, je suis beaucoup plus réservé hein, quand même, parce que c'est
Ah,
tellement
bah
différent.
voilà, c'est tellement différent comme
Ça a beau
style.
être Jackman, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment le jour et la nuit. Déjà,
Bah, le
là, on est
personnage
vraiment
est un
dans
ado
le
en plus. Le personnage principal étant un ado,
Ouais.
c'est
Non, non,
vraiment un
mais
langage différent.
c'est l'antithèse totale. C'est-à-dire que là, c'est du super-héros. Là, c'est vraiment bon enfant. C'est très comique.
C'est très coloré en plus.
C'est très coloré, ouais. Non, non, c'est vraiment.
Autant c'est coloré que Walking Dead est très très sombre. Et je parle pas parce que c'est en noir et blanc. Je veux dire au niveau des thèmes abordés, au niveau
Ouais,
du
non,
style,
c'est
voilà.
Là, on est. C'est très divertissant, quoi. Mais on n'est pas du tout. Enfin, c'est pas du tout dramatique, quoi. Invincible.
Ça pourrait limite être ces deux séries étaient écrites par Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. C'était le
Ouais, voilà,
côté
c'est ça.
gentillet d'un côté pour Invincible et son côté retors et méchant et même sadique pour Walking Dead, quoi.
Parce que même au fait, quand Invincible, enfin Mark, puisqu'il s'appelle Mark, le héros principal, même quand il a des problèmes, faut dire bon, c'est très 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 positif, quoi. C'est plein d'espoir. C'est
En même temps, ce sont des problèmes d'ado, c'est jamais
voilà,
vraiment très
ouais,
très grave.
c'est jamais désespérant comme Walking Dead, quoi.
Ça
Walking
paraît
Dead.
grave sur le moment pour lui, mais avec le recul et les années, on se rend compte que les problèmes d'ado, c'est pas grand-chose.
Non mais voilà quoi, quand on lit ça, ça fait sourire. Alors que
Je
quand
suis
on
en
lit
train de faire
Walking
mon
Dead.
vieux con. Je suis en train de faire mon vieux con là.
Oui, mais non, enfin voilà, non mais c'est exactement ça. Quand on lit ça, ça fait sourire. Quand on lit Walking Dead, on a plutôt envie d'aller se pendre, quoi, après, par moment. Donc vraiment aucun rapport. Donc il n'est pas dit que si vous avez aimé Walking Dead, vous aimerez Invincible, ça c'est clair et net. Par contre. Si vous aimez les comics de super-héros, si vous aimez les trucs assez frais, assez décalés, assez marrants,
Si vous avez aimé Ultimate Spider-Man aussi,
si vous avez
tout
aimé Ultimate
simplement.
Spider-Man, bien que Ultimate Spider-Man, effectivement, comme ça restait dans l'univers Marvel, je sais pas si Kirkman aurait pu aller aussi loin, par exemple.
Au niveau de l'ambiance, c'est tout à fait ça. Moi, c'est vraiment à ça que je le rapproche.
Ouais.
Mais
Mais
voilà, moi, franchement, pour moi, c'est de donner cette chance à cette série parce qu'elle en a besoin.
Ah oui, et puis c'est vraiment très bon. Et en plus, effectivement, ce serait sympa d'avoir des Invincible en français à la même cadence que Walking Dead, surtout qu'il y a matière, puisqu'on en est déjà à l'épisode
60.
65, je crois.
Oh non, 72, je crois.
Ah oui, donc c'est encore pire.
Ouais.
C'est ouais, d'accord. Donc voilà, donc on a vraiment vraiment du retard sur cette série. C'est
Sachant
bien dommage parce que c'est très bon.
en plus aux États-Unis, elle avait pris du retard parce que des fois elle sortait qu'un mois sur deux, puisqu'il y avait des problèmes de retard. Donc voilà, on arrive bientôt aux 75, je crois.
Donc voilà, encore une bonne surprise ce mois-là avec Irrécupérable. Donc franchement, la Delcourt ce mois-ci sont en grande forme. Deux bons titres.
De toute façon, ce mois-ci, on a quand même eu de très bonnes choses, honnêtement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait un podcast aussi long. On a vraiment eu de très très bonnes choses ce mois-ci. Des choses peut-être un petit peu moins intéressantes, mais dans l'ensemble, pas de trucs vraiment à jeter, quoi.
Bon, ouais, non, c'est vrai. C'est vrai,
À
c'est
part
vrai. Un bon
peut-être le
mois.
Dark Reign qui est vraiment très passable, qui est sauvé par la moitié de ses épisodes seulement, mais bon, ça reste quand même correct. Donc voilà, on va pas se plaindre, on a un bon mois de comics. Espérons que ça continue comme ça.
Exactement. Quelle
Bien.
conclusion formidable. J'en ai les larmes aussi, oh là, l'émotion est intense.
C'est la fin de ce très long podcast, qui sera d'ailleurs le dernier très long comme ça, à partir du mois prochain. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, vu que j'ai des nouveaux horaires et un travail qui me prend beaucoup plus de temps, je ne vais pas avoir le choix que de réduire un petit peu le nombre de reviews. Les émissions seront donc un petit peu plus courtes. On va
Mais la
essayer de...
qualité sera
Oui,
vous, bien
oui.
entendu.
Bien sûr. On va essayer de tabler sur à peu près 1 heure et demie. Rien de définitif encore, hein, mais je pense qu'on va couper un peu du kiosque et on va sélectionner un peu plus la librairie de manière à faire des émissions un peu plus courtes, parce que sinon, comme pour le Gotham After Midnight, je n'aurai pas le temps de tout lire. Donc ce serait dommage.
Et de tout monter, ce qui serait encore plus dommage.
Oui, parce qu'il y a aussi le temps de montage qui est très long.
Voilà.
En revanche, je tiens à préciser que l'émission Comic City ne s'arrête pas. Il y a eu quelques confusions avec l'arrivée de Comics Weekly, qui, elle, ne fait que la VO et les sorties VO de la semaine. Donc, ça sera en parallèle. Bien sûr, ce sera chaque semaine, mais Comic City et Comics Weekly seront deux émissions différentes, et l'une ne prendra pas le pas sur l'autre. Voilà, c'est vraiment... Il y en a deux, c'est pour...
Il y en a plus au fait.
Voilà.
Il y en a moins, mais il y en a plus, c'est ce qu'on peut dire.
C'est vrai qu'on a eu de la demande sur la VO, et donc... Donc c'est pour ça qu'on décide de répondre à cette demande. Et puis voilà, ça fait deux émissions avec un ton légèrement différent.
Et il y aura des spéciaux toujours.
Et toujours les spéciaux, oui, normalement à peu près une fois par mois. Enfin, en tout cas, on va essayer. Avant de se quitter, on avait reçu un petit mail qui nous posait une question. Alors, la question, c'était quelqu'un qui nous demandait s'il voudrait se lancer dans l'univers DC. Mais il sait pas trop quoi acheter en premier parce qu'il connaît pas grand-chose. Et de plus, il me dit Green Lantern m'attire énormément, mais par où commencer? Alors, bah pour Green Lantern, la réponse va être simple. On avait fait un spécial sur Green Lantern, ça devait être le numéro 2 de mémoire, ou 3 peut-être, le numéro 3.
De spécial?
Ouais.
Je crois que c'est le numéro 4 d'ailleurs.
Et ben voilà, comme ça, comme ça, je passe pour une buse. Donc on avait fait un spécial. Ce que je peux conseiller, c'est d'essayer d'aller le récupérer, puisque là, on aborde Green Lantern pendant à peu près 1 heure, je crois qu'il faisait. Et donc, on donne des bonnes pistes pour démarrer sur la série, avec des références sur la VF aussi. Donc, ça permet de pouvoir s'y retrouver si on veut lire en VF plutôt qu'en VO. Quant à DC, bah, pour commencer. Tout dépend de ce qu'on veut faire. En VF, on a, c'est sûr, pas énormément, énormément de choix, quoique, ça commence à avoir pas mal de titres depuis le temps que Papini en publie. Tout dépend de ce qui nous attire le plus. Est-ce qu'on est plus attiré par Batman? Est-ce qu'on est plus attiré par Superman? Est-ce qu'on est plus attiré par des héros un peu plus atypiques? C'est assez délicat comme question.
Ah, écoute, moi je vais lui dire, moi j'ai commencé vraiment à m'intéresser à DC avec la mini-série Identity Crisis.
Oui, qui était carrément un gros crossover en fait, sur tout l'univers DC.
Et qui était vraiment excellente, je trouve, qui m'a vraiment. En fait, on y rencontre beaucoup, beaucoup des personnages DC. Elle a donné le ton d'ailleurs des récentes années en fait, de production. Et elle est ressortie en deluxe récemment chez Panini. Donc franchement, c'est voilà, Identity Crisis, ce serait un bon point de départ, je trouve.
Alors il y a beaucoup de personnages, mais il ne faut pas se laisser arrêter par ça. Ça reste
Il y a
festival
beaucoup de
quoi, de toute façon.
personnages, mais ouais, enfin voilà quoi, on voit quand même les principaux, Batman, Wonder Woman, Superman. Le pitch est simple, hein, en fait, il y a un membre de la Ligue qui est assassiné, et puis voilà quoi. Il y a peut-être un tueur parmi la ligue. Et donc c'est assez sombre, mais c'est vraiment excellent. C'est vraiment une très très bonne histoire. Et ça donne le ton, effectivement, des années suivantes, puisque ça doit dater de 2000,
2004, je crois.
2004.
Ouais, 2004, je crois, de Identity Crisis. En tout cas, en VO. Sinon, je pourrais conseiller surtout de ne pas commencer par Final Crisis, les hors-séries qui sont facilement trouvables puisque c'est très récent.
Ouais, non, non.
Surtout
Final
ne pas
Crisis,
commencer par
oublié.
ça
Ouais,
parce que
c'est vraiment casse-gueule.
ça apportera plus de confusion qu'autre chose et ce serait un meilleur moyen pour se dégoûter de l'univers. Donc voilà, évitez peut-être aussi Trinity, qui franchement pour un...
Qui est pas extraordinaire, hein,
Voilà, c'est
Trinity.
tellement en marge que je suis pas sûr que ce soit vraiment représentatif de l'univers DC, bien au contraire.
Non, bah écoute, si tu as accès à par exemple des back issues en VF dans un comic shop, je ne sais pas, y avait les Batman Superman qui du coup ont publié aussi au début Identity Crisis, mais il y a eu ensuite le projet OMAC et Infinite Crisis qui ont été publiés dedans.
Puis bah, il y a la revue DC Universe. Hein,
La revue DC Universe qui est généralement très très bien.
Avec
Je dis généralement,
un
bon,
petit peu
après
de
ça dépend
tout, quoi.
comment.
Il y a du Green Lantern, il y a du Teen Titans, il y a la JLA, la Justice Society. Ça donne une bonne représentation un petit peu de ce qu'est l'univers DC.
Enfin, moi je sais que je la suis depuis le début, cette revue. Il y a déjà plus de 50 numéros, je crois qu'on en est au
56,
56.
puisque c'est celui qu'on a parlé tout à l'heure.
Voilà, donc il y a eu vraiment le meilleur quoi de la production des dernières années dans ces pages. Et sinon, voilà, comme disait Steve, hein, si t'es plus Batman, il y a toujours Superman Batman. Avant, il y avait Batman dans son magazine qui lui était attribué. Bientôt arrive en juin Batman Universe, d'ailleurs,
Bah,
où il y aura
ça peut
un
être
nouveau
aussi un
titre.
bon point pour commencer, suite à la mort de Batman, que se passe-t-il?
Voilà, exactement. Et pas que dire d'autre. Évite plutôt les big books. Il y a eu des big books DC qui sont pas forcément utiles parce que c'était des tie-ins à Infinite Crisis et c'était vraiment des arcs secondaires pas terribles, terribles. Donc je les déconseille franchement. Voilà. Bon, en DC, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre?
On a eu des big books sur Flash qui sont très bien. On a
Ah oui, il y a
eu
eu des
des...
big books. Par contre, oui, quand c'est sur un personnage unique. Il y a eu de bonnes choses, effectivement.
Il y a eu du Wonder Woman aussi comme ça. Le problème, c'est qu'on n'aura jamais la suite, donc.
Bon, il y a eu quelques épisodes de Batman qui ont été publiés dedans, mais.
Le Big Book Detective Comics qu'on avait fait il y a quelques mois était vraiment très sympa.
Ouais.
Je pense lisible par quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop.
Exactement, donc, ouais. Voilà. C'était du Paul Dini au scénario, donc c'était accessible, effectivement.
Moi,
enfin
j'en
voilà,
il y a
plusieurs choses. D'ailleurs, à la rigueur, si jamais t'as un doute, renvoie-nous un petit mail et dis-nous, voilà, est-ce que je prends ci, est-ce que je prends ça, si t'as vraiment des titres précis en tête.
Moi, je pourrais conseiller aussi peut-être 52, qui donne
Alors,
une
52,
petite.
c'est sorti donc en format kiosque.
En kiosque,
il y a
ouais.
Eu 13 numéros en français et donc voilà, pareil, si t'as
Ça
moyen
permet de
de
voir un petit peu un gros éventail de l'univers DC. Alors, je sais que certains n'aiment pas trop cette série. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Non, c'était vraiment sympathique. Et ça se rapproche beaucoup de ce qu'il y a actuellement aux États-Unis avec Brightest Day ou Generation Lost.
Et puis, c'est surtout qu'il y a les meilleurs scénaristes de chez DC qui sont tous dessus, puisque c'était une série hebdomadaire. Donc, c'était un pool de scénaristes qui tournait. Donc, on avait Geoff Johns, on avait Grant Morrison, il y avait Mark Waid aussi. Il y en avait un quatrième, je ne sais
Seth
plus qui
Giffen,
c'est.
je crois.
Je sais plus qui c'était le quatrième.
Je
Donc
crois que
voilà.
c'était lui.
Moi, j'ai vraiment bien aimé 52. Donc, il y a énormément de possibilités. Il y a des trucs, par contre, vraiment, comme on disait tout à l'heure, à surtout éviter pour commencer parce que ça fera plus du dégoût qu'autre chose. Voilà. Donc, on espère qu'on a bien répondu à ta question, qu'on t'a donné des bonnes pistes de départ et surtout envie de vraiment commencer. Et puis, comme d'habitude, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer par mail. Vous avez le formulaire de contact sur le site. Sinon, l'adresse est podcast@comiccity.fr.
C'était Greg Rouca.
Greg Rouca, voilà. Merci. Et donc, podcast@comiccity.fr pour vos questions. On y répondra dans les podcasts. Et donc, vous pouvez poser des questions autant pour Comics Weekly que pour Comic City. Essayez juste de préciser dans le mail pour quel podcast c'est. Bon, suivant la question, on peut des fois arriver à deviner, mais certaines fois, si vous voulez plutôt une réponse dans Comic City parce que vous n'écoutez pas Comics Weekly, précisez-le nous pour qu'on puisse y répondre dans le bon podcast.
Et également, pensez à préciser si vous voulez, dans la question, des références VF ou VO, parce que ça peut être utile pour notre réponse.
Si jamais vous voulez des références, bien sûr.
Oui, bien sûr, voilà.
Voilà, bon c'est la fin. Avant de nous quitter, je voudrais tous vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'émission. Vraiment, ça nous fait vraiment plaisir.
Oui, c'est la fête. C'est la fête.
Ouais, vraiment. Donc voilà, merci de vous écouter.
D'être fidèles.
Tous et de plus en plus nombreux. Et on espère que ça va continuer comme ça et qu'on va continuer d'avoir une très très large audience comme ça. Comme d'habitude, donc vous pouvez retrouver tous les épisodes sur iTunes. D'ailleurs, à ce sujet sur iTunes, pour ceux qui sont abonnés aux épisodes sur iTunes, normalement, si tout va bien, on laissera un message sur le site de toute façon, mais les feeds RSS avec le nouveau podcast Comics Weekly et Comic City, je veux qu'ils soient bien séparés. Pour pas que si vous les téléchargez automatiquement et que vous ne lisez absolument pas de VO pour ne pas avoir de spoiler, vous n'ayez pas les épisodes de Comics Weekly qui se téléchargent et que vous les écoutiez par erreur. Donc je veux que ce soit vraiment deux émissions différentes auxquelles vous pourrez vous abonner toutes les deux ou une seule s'il n'y en a qu'une seule qui vous intéresse. Donc pour ça, il va falloir refaire le feed RSS et donc il va falloir recréer une page Comic City sur iTunes. On laissera un message sur le site, il faudra que vous vous réabonniez au podcast qui vous intéresse pour pouvoir avoir les nouveaux épisodes parce que Comic City tel qu'il est normalement ne sera plus updaté pour le prochain épisode. Donc voilà, mais comme je vous ai dit, on laissera un message sur le site pour bien vous prévenir. Voilà, cette fois-ci c'est tout. On se retrouve d'ici 15 jours pour le début du mois de juin en VF. Donc dans l'épisode numéro 33 de Comic City. Et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien.
Ciao.